Non. Vous êtes chez vous ici. Je dirai un petit mot après. Je vous présente à Mendès France.
D'accord. Parce que c'est quand même votre maison.
Je fais comme ça, moi aussi.
Non, merci.
Je vous dirai pourquoi. Je dirai à tout le monde pourquoi.
Oui, Pascal va nous rejoindre, donc qu'on ne le perde pas. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui, cet après-midi, à l'espace Mendès France. Je tiens à remercier très sincèrement Didier Moreau de nous accueillir dans sa maison, d'autant que c'est sans doute une première pierre dans le sens d'une construction à venir entre nos deux organismes, donc le Centre du Livre et de la Lecture et l'Espace Mendès France. Nous souhaitons rapprocher nos expériences, notre travail. Donc je pense que ça se construira dans les mois qui viennent, mais je ne veux pas anticiper. Donc encore merci de mettre à disposition cette salle aujourd'hui pour accueillir cette nouvelle rencontre que le Centre du Livre propose donc cette année autour de la question du numérique et des incidences de cette révolution en cours sur le monde du livre, les métiers du livre. Certains d'entre vous avaient déjà participé à un premier moment au mois de février avec Pascal Desfarges de l'agence Rétis, que je remercie d'avoir accepté de revenir nous parler de ce sujet qu'il connaît bien. Alors, je ne vais pas être longue. Je voudrais juste, en ouverture de cette séance, citer peut-être un livre qui vous sera recommandé avec d'autres par Pascal Desfarges, qui est certains d'entre vous le connaissent sans doute, le livre de Barbara Cassin, Google-moi, la deuxième mission de l'Amérique, qui est sorti chez Albin Michel en 2007, tout début 2007. Et une citation, entre autres, de Barbara Cassin dans ce livre est la suivante. « Sans doute l'un des enjeux de tout enseignement et de toute pédagogie aujourd'hui est d'apprendre à se servir du net, d'apprendre à critiquer, à problématiser et à construire au moins autant qu'à chercher, trouver, couper, coller. » C'est la raison pour laquelle le Centre du Livre et de la Lecture poursuit donc avec vous cette exploration. Le thème de cet après-midi, nous avons choisi de parler plus particulièrement de Google. Google a été beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'actualité du livre, des gens qui travaillent dans ce secteur, que ce soit dans le domaine des bibliothèques, du côté de l'édition aussi et des auteurs, avec son programme de numérisation d'un certain nombre de fonds de bibliothèques aux États-Unis et en Europe. Donc on va essayer de questionner cette idée de bibliothèque que propose Google, que Google impose aussi aux acteurs du livre, et la relation faustienne peut-être qui s'inscrit au cœur de ce système, mais ça je vais laisser Pascal en parler. On va essayer de mieux comprendre, peut-être pour aussi, lors de prochains rendez-vous, essayer de proposer des alternatives aussi, peut-être des idées. On poursuivra ça en 2010. Et puis pour conclure, encore une petite citation de Barbara Cassin. Si on parle d'alternatives, d'autres modèles, possibles peut-être. L'alternative à Google passe par l'exploration de ce que Google a vocation à laisser de côté, aussi peut-être, le singulier, le style, l'œuvre, la pluralité des langues, des cultures, comme telles. C'est au cœur des missions du Centre du Livre, et c'est pour ça que vraiment ça nous intéresse. Je vous propose de couper vos portables, tant que j'y pense, voilà, pour ne pas perturber la séance. Et puis, je cède la parole à Didier Moreau.
Merci. Donc, bienvenue à toutes et à tous, bien sûr, à l'Espace Mendès France. Alors, juste un mot là, pour un rappel, même s'il y a beaucoup de têtes dans la salle qui sont connues de la maison, un rappel de la mission de cette maison. Et puis, juste un tout petit mot, parce que dans cette salle, depuis une dizaine d'années, les alternatifs ou les alternatives à un certain nombre de systèmes sont venus proposer à travers des discours, mais aussi des propositions, un certain nombre de choses. En particulier des gens comme Edgar Morin, voici 3 ans sur les questions de développement. L'Espace Mendès France est bien symbolisé par cette affiche. C'est à la fois un patchwork, mais également un ensemble de propositions pour nos publics. Vous êtes ici dans un lieu de culture scientifique qui est relativement unique en France actuellement, puisqu'il n'y en a que 4 ou 5 qui existent sous cette forme-là. Il est issu d'une volonté de scientifiques et d'élus au milieu des années 80 de mettre à disposition de la population, des citoyens, une meilleure information et les conditions d'un débat sur les sciences, les techniques et les technologies. Quand ces projets ont été lancés, on était dans une, on appelle ça une posture, dans une posture où celui qui savait, il était à la tribune, donc c'est peut-être vous, et ceux qui venaient écouter et éventuellement débattre étaient dans la salle. Sur 20 ou 25 ans, ces modes relationnels entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ont largement évolué. Une demande de contribution, de participation, d'échange est de plus en plus forte et on est de plus en plus sur un mode que le sommet de Lisbonne en 1999 a appelé la société de la connaissance et ses déclinaisons, en particulier ce qu'Edgar Morin appelle, puisque Edgar fait partie de son comité scientifique actuellement à l'étage, donc c'est pour ça que j'en parle d'un peu plus près, et fait partie des gens qui sont en train d'essayer de promouvoir ce qu'on appelle la démocratie cognitive, c'est-à-dire permettre à toutes et tous d'être un peu plus près de là où se crée la connaissance pour être un peu plus citoyen, un peu plus participatif à des décisions publiques, individuelles et collectives. Les problèmes qui sont médiatiques actuellement sur les questions de grippe n'ont pas fini d'effrayer la chronique dans les jours qui viennent et on est là en plein dans un problème de culture scientifique. Donc cet établissement a pour vocation de favoriser le rapprochement entre la communauté scientifique, la communauté technique et depuis une dizaine d'années, parce qu'il y a 25 ans on ne parlait pas de ça, la communauté entre guillemets technologique qui n'a pas encore de véritable statut ni en France, ni en Europe, ni au niveau mondial. Donc ça veut dire que ces établissements ont un rôle dans une démocratie locale, tout à la fois d'informer, de participer à une éducation aux sciences. Vous êtes arrivé à l'espace Mendès France en même temps que deux ou trois classes de lycée. Nous avons, puisque c'est la fête de la science, organisé aussi dans ce cadre-là un certain nombre d'animations pour les jeunes et les moins jeunes, qui fait que ce week-end, on aura 3 ou 4 000 visiteurs qui viendront se rapprocher des sciences à travers l'échange avec les scientifiques. Donc voilà la mission de l'espace Mendès France. Sauf qu'ici, on est à Poitiers, dans une ville universitaire. La France est constituée d'un territoire où il y a des villes universitaires et non universitaires, des villes de savoir-faire avec des bassins d'emploi techniques et des villes qui ont perdu leur savoir-faire, et vous avez le monde rural. Donc la chance des villes universitaires, c'est de pouvoir favoriser ce genre de débat parce qu'il y a une proximité. Il est simple, y compris du point de vue extrêmement concret, de venir de Paris pour des intervenants, vous parlez ou parlez au Poitevin. Mais quid de l'accès de nos concitoyens à la connaissance de manière humaine, avec une dimension humaine de cette connaissance? Donc le rôle de l'espace Mendès France, et à ce titre-là, depuis 12 ans, moi, je me suis battu, y compris contre les politiques, pour créer les conditions d'une diffusion sur le territoire, d'une diffusion de la connaissance et au-delà des réseaux, à travers des choses concrètes, vivantes, en mettant à disposition de nos amis des foyers ruraux, des MJC, des offices de tourisme, des temps de rencontre où des scientifiques qui travaillent dans le monde académique viennent se plier à ce débat démocratique. Donc le rôle de l'espace Mendès France, c'est aussi de diffuser sur le territoire. Donc on passe d'un rôle de vulgarisation à un rôle de un peu de metteur en scène de la science et de metteur en scène des débats. Donc l'espace Mendès France est dans ce positionnement et dans cette avancée. Par rapport à la question du numérique, moi je me rappelle avoir fait ici une intervention, donc je m'en souvenais quand on en a parlé ensemble, en 2000, avec la compagnie des Pingouins, les gens de Linux, hein, je voulais dire, donc les Linuxiens. Ils étaient 150 dans cette salle, venus de toute la France. Et je les implorais de faire de la vulgarisation et de la culture scientifique autour du jargon et autour des dispositifs que eux mettaient en place. Magnifique, extraordinaire, pertinent. Mais en attendant, qui est capable d'accéder à ça s'il n'y a pas une culture environnante? Le débat que vous allez avoir là autour de Google, il est celui-là. C'est-à-dire que, quelque part, les questions de la culture scientifique, les questions de la divulgation des faces cachées de la boîte noire sont indispensables. Sauf que ça va être fait ici et maintenant de manière remarquable à Poitiers, par notre intervenant, parce que le Centre du Livre a créé les conditions. Mais quid de nos concitoyens pour accéder à quelque chose qui leur permettra de créer les conditions d'une alternative? Je vous racontais juste une petite histoire ensemble, parce qu'on est dans une maison qui est assez transparente. Dans le réseau des scientifiques d'Edgar Morin qui sont en train de travailler avec moi sur la prochaine université internationale au-delà du développement, il y a, bon, accessoirement, le directeur de cabinet de Daniel Cohn-Bendit. Moi, ça fait des années que je connais ce monsieur qui s'appelle Jean-Marc Salmon, et je lui dis, le militantisme est un moteur, le militantisme, par son discours, est un empêchement. Ça veut dire qu'il faut trouver de nouvelles modalités, c'est ce qu'on appellera changer les formats, pour que celles et ceux qui ont une conscience aiguë, des tenants et des aboutissants des enjeux, Google en fait partie, mais il y a d'autres enjeux derrière ça, des tenants et des aboutissants, pour qu'on trouve de nouvelles modalités pour dispenser un discours qui permette à celles et ceux qui ne sont pas dans un mouvement militant, impliqué, connaisseur, d'adhérer et d'être acteur de quelque chose qui est autre. Donc l'enjeu de la discussion d'aujourd'hui, il y a une petite centaine de personnes dans la salle, c'est de s'approprier les éléments du discours, de la discussion, mais surtout de créer les conditions d'une divulgation en proximité de là où vous êtes, et de le faire de manière humaine et vivante. Et c'est dans ce sens-là que, pour parler du réseau, il faut en parler en direct, de manière concrète, humaine, dans le monde de la vie démocratique. Et je crois qu'il y a une balance, un équilibre, une balance c'est en anglais, un équilibre à créer entre les revendications et la réflexion sur des alternatives, mais également le fait de faire adhérer un véritable réseau d'intervenants là-dessus. Parce que la chance du virtuel, c'est effectivement de pouvoir créer des communautés. Son malheur, c'est de créer des communautés, parce qu'elle s'exclut des territoires. Et donc la reterritorialisation et la réhumanisation des questions à travers Google, sur les tenants et les aboutissants du réseau, c'est la même question qu'on se pose actuellement sur l'écart qui se crée entre la population et les scientifiques et les experts. Le débat que vous allez avoir sur Copenhague, parce que nous on y participe, va montrer à quel point les décisions politiques vont se servir de manière cynique des controverses qu'il y a dans le monde scientifique sur est-ce que le changement climatique, il est vrai ? Puisqu'il y a une communauté scientifique qui est en train de monter et qui est en train de prouver que le changement climatique n'a pas lieu. Donc on voit bien que derrière ça, le doute, il s'insinue chez tout le monde. Donc moi, par rapport à cette problématique, dans une maison de diffusion de culture scientifique, on a toujours, au-delà de l'esprit dominant, qui est Windows, Google, on a toujours promu, à travers la formation, des éléments alternatifs. Mais des lieux comme Mendès, il en faudrait des milliers en France et en Europe pour effectivement dire que ça existe, mais c'est une logique qui contribue à un certain nombre de développements, qui contribue également à enrichir ou doper un certain nombre d'états d'esprit. Donc avoir des milliers de lieux, mais aussi des milliers de gens qui relayent le discours, c'est une façon aussi d'humaniser une critique qui a le risque de rester dans une communauté fermée. Donc voilà, donc moi je n'ouvre pas le débat, mais simplement je fais part d'une réflexion d'un médiateur qui au jour le jour voit arriver des publics. Depuis 15 ans, on a vu arriver des publics dont les pratiques, les usages à la maison et dans des communautés fermées, échappent complètement à des stratégies publiques, à des orientations politiques, qui fait que petit à petit, le monde il est en train de se scinder en différentes communautés. Je crois que ça va faire partie des débats que vous aurez à avoir. Voilà, donc l'espace Mendès France n'est pas étranger à tout ça, et nous, on s'est toujours impliqué sur la question des débats et des alternatives. Mais encore une fois, il faut les humaniser, il faut leur donner une dimension territoriale pour pouvoir diffuser ces débats et permettre une meilleure démocratie à tout ça. Je vous remercie en tout cas d'être là, parce que vous faites, à travers votre présence, acte peut-être de militantisme, mais surtout de démocratie. Merci.
Merci. Bien. Bonjour. Donc, j'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Enfin, rien à dire. Je vais dire beaucoup, mais... je vais essayer. Mais je souscris à 150% au discours qui vient d'être tenu. Pas d'expression publique de cette médiation numérique sur le territoire. Si, quand même. Si, quand même. Vous sensibilisez quand même à la logique des espaces publics numériques, dont je suis un spécialiste depuis bien longtemps, depuis maintenant 13 ans. Puisque j'accompagne et je forme sur toute la France les animateurs multimédia de différents dispositifs qui sont issus des conseils régionaux, conseils généraux et ministères. J'ai pas le temps, c'est pas le sujet, on pourrait faire même une conférence là-dessus, mais sachez qu'il existe des labels comme les points CIB jeunesse et sport, comme les cyberbases de la Caisse des dépôts et consignations, qui sont censés, dans leur cahier des charges, transmettre ces cultures numériques. Je dis bien censés. Et donc moi, on me paye, entre guillemets, pour aller former ces animateurs multimédia, non pas aux technologies, certains de ces animateurs sont 100 fois plus compétents que moi, mais aux cultures numériques. Alors déjà, peut-être qu'on n'emploie pas les mêmes mots, mais je pense qu'on dit exactement la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, le numérique est une culture, une véritable culture. On l'a ou on l'a pas. Et si on l'a pas, eh bien, on peut l'apprendre. Et évidemment, pour apprendre cette culture numérique, ça ne se fait pas derrière une machine nécessairement, ça se fait effectivement dans un présentiel, c'est-à-dire dans une confrontation avec des publics, dans un débat démocratique, dans un échange. Voilà, donc je suis effectivement, je me positionne exactement dans cette lignée-là. Moi, je passe ma vie sur les territoires, physiquement, à me déplacer de Bordeaux à Strasbourg, de Strasbourg à Nantes, à Clermont-Ferrand, voilà, à faire des formations et à transmettre, en tout cas, tenter de transmettre ces cultures numériques. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Google. Alors, je pourrais résumer en une phrase mon intervention. Je hais ce que j'adore et j'adore ce que je hais. Je suis bien, bien embêté. D'abord parce que je suis tombé malade il y a quelques années, il y a maintenant 7-8 ans. Je suis tombé malade, vraiment malade, au sens pathologique du terme, d'une maladie grave qu'on appelle la peur du labyrinthe. La peur du labyrinthe, cette maladie est maintenant traitée de manière officielle à l'hôpital de Stockholm, qui traite les maladies des technologies, pas simplement les maladies physiques des technologies, c'est-à-dire j'ai mal aux doigts, j'ai mal au dos devant ma machine, ou j'ai des problèmes d'yeux. Non, des maladies psychologiques. Alors la peur du labyrinthe, je vous la synthétise en 2-3 phrases. Plus vous cherchez sur un moteur de recherche, plus vous, en termes d'auto-formation, vous apprenez à chercher. Hein, on va voir justement ce que c'est la recherche aussi. Vous apprenez les opérateurs de ciblage, les opérateurs logiques. Vous apprenez à parler à l'algorithme de Google dont on va parler. Et puis vous rentrez, évidemment, plus vous savez chercher, plus vous trouvez. Et plus vous trouvez, c'est très très riche, plus vous vous dites, il y a encore des choses à trouver. Et donc ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais et vous rentrez dans une angoisse métaphysique très dense et vous rentrez en dépression nerveuse, en dépression profonde. Et là, vous allez à Stockholm vous faire soigner. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous ne prenez plus de distance. Vous n'arrivez plus à prendre de distance. Et puis on vous met, alors là, on vous met dans la forêt avec des arbres, des animaux, des êtres humains. C'est curieux, pour vous réapprendre la distance et réapprendre la parole, etc. Voilà. La peur du labyrinthe, surtout ne tombez pas malade. Alors moi j'ai résolu mon problème, hein. C'est de ne plus être derrière le réseau, mais d'être devant les gens à parler du réseau, comme ça, c'est un peu je suis derrière la caméra, si vous voulez. Comme ça, mon problème est résolu, je ne passe plus 17 à 18 heures par jour derrière le réseau. J'ai une question à vous poser, à tous. Alors déjà, petit modus vivendi entre nous, c'est un espace interactif. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Bien sûr, ne pas être d'accord avec moi, bien entendu. C'est un débat. Et puis, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein, et, je suis pas, c'est de la non-conférence, c'est un barcamp. C'est une non-conférence. D'accord ? Vous taperez barcamp, B-A-R-C-A-M-P, sur Wikipédia. Aïe, Wikipédia. Ça serait un sujet en soi qui est tout à fait passionnant. Alors, j'ai une question à vous poser à tous. Qui utilise Google pour faire des recherches d'informations sur Internet ? Levez le doigt. Bougez pas. Qui utilise majoritairement Google pour faire des recherches d'informations ? Mademoiselle, vous n'utilisez pas Google ? Si ? Alors ? C'est curieux ? C'est curieux, non ? Sachez qu'il existe 30 000 moteurs de recherche sur Internet. Métamoteur, multimoteur, agent intelligent, base de données, index, annuaire. Alors pourquoi tout le monde utilise Google ? J'attends une réponse. Pourquoi vous utilisez Google ? Est-ce que vous avez une réponse à cette question ? Oui ? Vous êtes sûr de ça ?
Ah, je ne suis pas sûr. Donc, j'ai fait quelques comparaisons.
Est-ce que ça vous gêne d'utiliser Google ? Non, non. Alors, vous savez, la conférence a été annoncée sur le web. bon, à travers le... Hein. Moi, ça fait à peu près... Depuis 1995, je transmets les cultures numériques, à la fois dans le milieu associatif. Maintenant, j'ai une vraie SARL, agence Rétis, spécialisée dans les cultures numériques, à but lucratif. Et depuis que je suis SARL, donc, je n'ai jamais reçu aucune lettre de Google. C'est assez curieux, car depuis que la conférence est communiquée sur le web, je ne sais pas, ça fait 15 jours, hein, s'il vient un peu plus, j'ai reçu une lettre de Monsieur Google. Non, mais c'est vrai, j'en ai reçu 4 des lettres. 4, avec une proposition commerciale. Il m'offre dans chacune des lettres 75 € d'indexation gratuite de mon site web, AdWords. Ajoutez les mots-clés, c'est 4 × 75 €. C'est-à-dire, j'ai 300 € d'indexation, d'achat de mots-clés gratuits grâce à mon ami de toujours, Google. Je ne ferai aucun commentaire. Hein, vous déduisez ce que vous en déduisez, mais c'est la première fois que M. Google m'écrit. Il n'y a personne de Google dans la salle ? Ça arrive, hein ? Ça arrive. Alors, vous avez vu, l'intervention s'appelle « Don't be evil ». Alors, j'ai essayé de le traduire. Il y a plein de gens qui essayent de se traduire, d'ailleurs, cette expression. C'est un peu comme... c'est une expression très difficile à traduire. C'est un peu comme Bartleby, l'expression de Bartleby, d'Herman Melville, hein, qui ne veut pas, ce personnage qui ne veut rien faire. On n'arrive pas à la traduire. Il y a plein de gens qui essayent de traduire une expression comme ça. Alors, il y a « ne soyez pas méchant », il y a « ne faites pas le mal », il y a « ne soyez pas le diable », « ne soyez pas diabolique » et « ne soyez pas négatif ». Cette expression « don't be evil » est un slogan publicitaire interne à l'entreprise Google. C'est-à-dire, ce n'est pas pour le marketing, c'est en interne. Quelle est la philosophie de base de Google ? La philosophie de base de Google, c'est de s'opposer aux logiques industrielles, c'est officiel, hein, c'est écrit, du XXe siècle, c'est-à-dire ces entreprises capitalistes fermées sur elles-mêmes, qui essayent de prendre le pouvoir à tout prix. Au contraire, la philosophie de Google est très modeste. C'est la modestie qui prime. Les valeurs qui sont, transmises aux employés de Google, eh bien, je vais vous les montrer. J'ai même trouvé une petite photo. Alors, je vais vous lire, hein, ce qu'il y a sur cette charte. Ça, c'est dans tous les bureaux de l'entreprise Google. Code values. Ce sont les valeurs que les salariés de Google doivent respecter. Donc je vous lis. Il y en a 10. Ce sont des commandements. Il y a une dimension biblique chez Google. Biblique. Et il y a une dimension, et c'est ça qui est très complexe, hein, très compliqué à comprendre, il y a une dimension sincère, y compris de la part des dirigeants. Vous voyez, c'est des articles, hein. Et donc la première règle, c'est nous voulons travailler qu'avec les meilleurs. C'est la première règle. La deuxième règle, l'innovation technologique est notre sang. Vous voyez bien les termes qui sont employés, hein, notre sang. La troisième règle, travailler chez Google, c'est sympa. La quatrième règle, sois activement impliqué, tu es Google. Pas A-H-I-S, hein, tu es toi-même Google. La cinquième, ne considérez pas le succès comme acquis. La sixième, faites ce qui est juste, pas ce qui est mal. C'est un discours biblique. C'est la Bible. Hein. La septième assertion, c'est gagnez vos clients et utilisateurs loyalement et avec respect chaque jour. La huitième règle, la croissance et la rentabilité à long terme sont la clé pour notre succès. À long terme. Et la neuvième règle, Google s'intéresse et soutient les communautés où nous travaillons et vivons, les communautés, les réseaux sociaux. Et la dixième règle, nous aspirons à améliorer et changer le monde. Aucune société commerciale n'a ce type de discours. C'est presque un discours sectaire, hein, enfin sectaire, en tout cas hein. C'est un discours parfaitement humaniste qui va avec les propos de notre directeur en préambule de cette intervention. Je trouve très humaniste, moi, le discours de Google. Non, vous ne trouvez pas ? En gros, « don't be evil », c'est « il ne faut pas faire le mal ». D'accord ? Ça, c'est une première chose. Et on va reparler de cette modestie de Google. Déjà, à partir du moment où ils affirment une modestie, aspirent à changer le monde, à faire du bien aux clients, à surtout de ne pas le stresser, hein, à lui transmettre du savoir, de la connaissance, Comment contrecarrer le modèle Google ? Déjà, on est un peu pris au piège, hein, parce que ce n'est pas le discours de Microsoft, d'accord ? Qui est une vieille société ringarde du XXe siècle. C'est marrant, c'est d'ailleurs curieux, les gens s'offusquent. Les gens commencent à avoir très très peur de Google, mais ont beaucoup moins peur de Microsoft. Ils ont totalement accepté d'avoir Windows sur leur ordinateur. Qui a Windows sur son ordinateur ? C'est énorme. Et ça, ça ne vous gêne pas ? Par contre, Google inspire plus la méfiance. Vous allez voir, je suis dans un discours totalement de contradiction avec Google. Hein. Je hais ce que j'adore ce que je hais. Google, il n'y a que 20 000 salariés dans le monde. C'est très très peu. France Télécom, 150 000 salariés. Et France Télécom est loin d'être une société aussi connue que Google. Donc c'est une toute petite société qui a une résonance mondiale. Si vous allez dans la rue et que vous posez la question à quelqu'un en disant Internet, il vous répond 9 fois sur 10, il vous répond Google. C'est-à-dire qu'il y a une assimilation hein, entre Google, qui est ma foi un site web, hein, et le réseau Internet. Voilà pour cette première présentation. Vous entretenez avec Google, Sylviane l'a dit tout à l'heure, une relation faustienne. Je vous rappelle Faust, donc Goethe, oh, vite fait quand même, un petit rappel hein, pour les plus jeunes peut-être, Goethe et puis aussi le film Michel Simon, Gérard Philippe, qui est peut-être une expression plus réaliste. Hein. Faust est un, Michel Simon, un vieux monsieur qui tombe éperdument amoureux de Marguerite, 18 ans, très jeune fille, et comme il tombe éperdument amoureux, bah, Marguerite ne le voit que comme un vieux monsieur, quoi, pas comme un amoureux. Alors il va voir le très très beau Gérard Philippe, et il lui demande « rajeunis-moi ». Alors il va la rajeunir. Le deal, le contrat, hein, c'est « si je te fais rajeunir, tu signes un pacte de sang, hein, un pacte de sang, et tu me donnes ton âme ». Eh bien, la relation que vous avez aujourd'hui avec Google, et moi premier, hein, moi peut-être plus que vous encore, c'est une relation faustienne. C'est-à-dire que j'utilise ce moteur tous les jours parce que je pense que c'est le meilleur. Je pense que c'est le meilleur. Je ne peux plus m'en passer. Et plus je l'utilise, et plus je légitime Google. Et la loi chez Google, c'est celle-là. C'est vous qui faites le succès de Google. C'est de votre faute. C'est de votre faute. Si Google aujourd'hui a une telle prégnance sur le monde de l'information, c'est bien parce que vous l'utilisez. Est-ce qu'on est d'accord ? Vous êtes d'accord avec... Vous avez parfaitement compris, vous aussi, vous êtes Google. Vous avez signé de votre sang. Signer de son sang, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'économie numérique dont on va parler, parce qu'on va parler d'économie, vous allez voir que pour comprendre la dimension du livre, il faut parler d'abord d'économie. Si vous voulez exister sur Internet, vous devez pactiser avec Google. Et vous n'avez pas le choix. Que vous soyez un chercheur scientifique, que vous fassiez des sciences cognitives, de la philosophie analytique, que de la neurobiologie, que vous soyez poète, si on ne vous trouve pas sur l'Internet, vous n'existez pas. Et ce n'est que le début. Hein. Ce n'est que le début. Donc il faut qu'on vous trouve. Alors vous avez des sociétés commerciales hein, qui vont tout faire, mettre en place des stratégies de marketing, qui vont acheter des mots-clés, qui vont mettre en place dans la définition de leur portail web ou dans leur site web des stratégies d'ergonomie, de mots-clés, d'achat de noms de domaine, etc., pour être présent, pour remonter dans la hiérarchie Google. Et quand on va taper un mot-clé, eh bien, on va les trouver dans les premiers liens. Mais si vous n'êtes pas dans les trois premières pages de Google, vous êtes mort. Vous aurez beau faire le plus beau site Internet du monde, vous aurez beau écrire le texte le plus intelligent de la planète, si vous n'êtes pas dans les résultats, vous n'existez pas. Donc forcément, vous rentrez dans une relation faustienne. Vous, comme les sociétés, comme les États, comme toute forme d'activité humaine aujourd'hui. Vous êtes d'accord ou pas ? Vous me le dites ? Ah. Allez-y. D'accord. Mais pourquoi ?
Parce que mon implication ne va pas jusqu'à une relation.
C'est ça.
Je suis dans une relation intellectuelle, mais pas postienne.
D'accord. Et quand vous cherchez de l'information sur Internet, vous utilisez...
Je n'utilise pas que ça.
Ah, voilà. Très bien. Quel est l'objectif officiel et affiché de la société Google, Google Incorporation ? L'indexation, la numérisation, l'organisation de toute forme d'information sur la planète. Je dis bien de toute forme d'information sur la planète. C'est l'objectif. Hein ? La phrase qui est écrite dans les textes officiels de Google, toute information doit être numérisée pour être traitée par l'algorithme. D'accord ? Donc l'information, c'est très très varié. Sachez que le moteur d'indexation de pages web que vous appelez google.com, que l'on vous appelle google.com, c'est une des activités parmi d'autres de Google. C'est celle qu'on connaît, c'est celle qu'on utilise tous les jours. Mais elle est loin d'être la seule. La stratégie est beaucoup plus large, et vous verrez, elle est à la fois directe et indirecte. Petite histoire de Google. Qui a créé Google ? Deux jeunes étudiants. Alors, il y a le mythe et la réalité. Vous savez, c'est comme qui a créé Windows ? Deux jeunes étudiants dans un garage, Steve Jobs. D'accord. Ça, c'est, il y a à la fois l'aspect mythologique, hollywoodien, et puis l'aspect très réaliste. Donc les deux étudiants s'appellent Larry Page et Sergey Brin, qui inventent un algorithme mathématique qui permet d'indexer l'information sur Internet. C'est leur thèse de doctorat à l'université de Stanford, aujourd'hui l'université la plus puissante du monde, à tout niveau. Ils font leur thèse de doctorat et puis créent tout juste derrière, il y a une préfiguration en 1997 de cette société commerciale, en 1998 ils créent Google Incorporation. Alors, je signale que dans l'histoire industrielle, dans l'histoire du commerce mondial, depuis le Quattrocento italien, aucune société au monde n'a eu un développement aussi foudroyant. Rendez-vous compte, cette société a été créée en 1998, nous sommes en 2009, elle est absolument mondiale. Jamais, jamais dans l'histoire industrielle du monde, il y a eu une société commerciale, un aspect, une logique commerciale aussi rapide et aussi puissante. La question est pourquoi ce développement en asymptote, qu'est-ce qui porte cette logique de développement aussi rapide ? Alors, qu'est-ce qu'ont inventé Larry Page et Sergey Brin ? Ils ont inventé un algorithme mathématique qui permet d'indexer l'information sur Internet. Mais avant Google, il y avait d'autres moteurs. Quel était le moteur dominant en 1997 ? C'était AltaVista. AltaVista, c'était le moteur que tout le monde allait voir, qui est un excellent moteur. Pour résumer la situation, comment sont indexées les informations sur un moteur de recherche ? Il y a une base de données derrière qu'on interroge. Elles sont indexées à travers des critères de hiérarchie, qui hiérarchisent ce qu'on appelle le page rank, le rang de la page, qui hiérarchise l'information quand on tape un mot-clé. Si je tape lapin, voilà, on aura une première page web, une deuxième page web, une troisième page web, 100 000, et on ira de page en page. Eh bien, la première page web est censée répondre à « c'est la meilleure référence par rapport aux mots-clés, aux keywords, aux tags que vous avez tapés ». Quels sont les critères majeurs ? Des critères, il y en a 500, 1000 même parfois. Mais chaque moteur a des critères dominants. Quels étaient les critères dominants d'AltaVista ? Plus une page est visitée, plus elle monte dans la hiérarchie. Premier critère. Deuxième critère dominant chez AltaVista, on privilégie les .com. .com, c'est commercial. Conclusion, AltaVista valorise la dimension commerciale des pages les plus visitées du web. C'était ça. C'était ça, les critères d'AltaVista. Alors, qu'est-ce qui fait que l'algorithme de Google va prendre le pouvoir ? Dites-vous bien, c'est que on peut résumer Google à une formule mathématique. Cet algorithme est ultra secret. On va voir le culte du secret chez Google. Cet algorithme est secret. D'ailleurs, l'algorithme initial est enfermé dans un coffre-fort à Stanford. Et cet algorithme, ça, peu de gens le savent. D'ailleurs, Barbara Cassin est l'une des seules en France à vraiment le transmettre. Cet algorithme, juridiquement, n'appartient pas à Google. En termes juridiques, en termes de propriété intellectuelle. On parle beaucoup de propriété intellectuelle dans les livres et de droits d'auteur, mais sachez qu'un algorithme mathématique a aussi une dimension juridique. Et l'algorithme de Google n'appartient pas à Google. Il appartient à Stanford. Car la thèse de doctorat a été faite à Stanford. Ce qui fait que quand nos deux jeunes étudiants ont voulu créer leur société, l'université de Stanford leur a dit, pas de problème, mais vous allez, on va négocier un contrat juridique entre nous. Le contrat est le suivant. La société Google a un droit d'exclusivité d'usage de son algorithme jusqu'en 2011. Donc vous vous dites, on est en 1998, hein, on se situe en 98, et on leur dit, vous allez signer ce contrat, on vous donne l'exclusivité de l'usage de cet algorithme jusqu'en 2011. Et Stanford dit, à partir de 2011, toutes les sociétés du monde pourront, tous les autres moteurs de recherche, pourront utiliser votre algorithme. Ceci explique cela. Cela explique la course effrénée pour prendre le pouvoir. Forcément, puisqu'en 2011, ils vont devoir lâcher cet algorithme. Alors attention, hein, ils l'ont amélioré, hein, l'algorithme, on le densifie, on l'améliore. Mais n'empêche que c'est ce qui explique en grande partie pourquoi les dirigeants de Google ont mis tout de suite la barre très très haut pour se développer le plus rapidement possible, de façon à prendre de l'avance sur la concurrence qui allait arriver derrière. C'est-à-dire, imaginez, hein, Yahoo, le grand concurrent, un des concurrents de Google, c'est pas le seul. Facebook est un concurrent beaucoup plus dangereux. Yahoo attend, à partir de 2011, d'avoir cet algorithme. Alors cet algorithme, tout le monde le connaît. Hein. Si vous prenez une bouteille de Coca-Cola, une bouteille de Coca-Cola. Si vous regardez la bouteille de Coca-Cola, sur la bouteille de Coca-Cola, vous avez les ingrédients. Hein. Regardez bien derrière, il y a tous les ingrédients. Mais vous n'avez pas le dosage. Eh bien, l'algorithme de Google, tout le monde le connaît. Mais personne n'en connaît le dosage. Vous voyez, si je veux faire une métaphore, c'est plus complexe que ça, bien entendu. Alors, quel est le critère d'indexation de Google ? Le critère d'indexation de Google, très difficile à traduire en français. Link veut dire lien. C'est le linking. Alors, il y a certains chercheurs qui traduisent quand même. Hein. On appelle ça la connectivité. Je vous explique en une phrase, enfin une ou deux phrases. Si vous avez un site internet, hein, vous avez un site internet, vous avez fabriqué votre site internet, ou votre blog, hein, ou votre wiki, Web 2.0, dont on va parler aussi, qu'est-ce qui fait que votre blog, votre wiki, votre site internet va se retrouver, si on tape les bons mots-clés, dans les premières pages de Google ? Ce n'est pas parce que votre blog aura été très visité. Bien sûr, ça fait partie des critères hein, de Google, mais c'est un critère qui n'est pas essentiel. Est-ce que c'est parce que c'est .com ? Non. Ce qui fait que vous serez dans les premières pages de Google, c'est parce que d'autres sites internet vous auront référencé. Parce que d'autres pages web, d'autres blogs auront établi un lien vers votre site. En d'autres termes, ce que valorise Google, c'est le réseau que vous représentez. Est-ce que je me fais comprendre ? Je ne suis pas sûr. Hein, Eh bien, la connectivité, c'est ça. Et ça, c'est redoutable. C'est redoutable, et c'est le grand génie de Sergey Brin et Larry Page. Je signale que Larry Page et Sergey Brin ne sont pas des petits étudiants en informatique. Hein, ça, c'est le mythe. Ils sont tous deux fils de très grands mathématiciens. L'un russe, l'autre américain. Depuis l'âge de 10 ans, ils font de l'algorithme. Donc je pourrais résumer les choses. Les inventeurs de Google sont des mathématiciens. Ce ne sont pas des spécialistes du web, des geeks, des nerds, des otakus, des no-life, des créatures numériques bizarres. Ce sont des mathématiciens. Hein. Ça aussi, on ne le dit pas assez, que ce qui porte Google, c'est les mathématiques. C'est évidemment les mathématiques. Alors le linking, c'est redoutable comme critère parce que ça veut dire que plus d'autres vous valorisent, plus vous êtes trouvé. D'où le fait, madame, que effectivement, les résultats de Google vont être plus pertinents puisque d'autres vous valorisent. Mais ça peut être des crétins qui valorisent des crétins. Non ? Hein ? Un site idiot va être valorisé par des idiots. Je résume comme ça. Donc c'est pas forcément... N'empêche que globalement, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 98 ? Les résultats de Google étaient beaucoup plus crédibles. Parce que si vous tapez Thomas Pynchon, écrivain américain, qui référence le site officiel le site des fans de Thomas Pynchon ? D'autres spécialistes de littérature américaine ou de littérature expérimentale. Et forcément, on a une pertinence plus importante. En termes d'usage, alors je n'ai pas trouvé les chiffres d'usage de Google à l'échelle mondiale, très difficile à trouver. Par contre, j'ai trouvé ceux des États-Unis actualisés. Chaque mois, aux États-Unis, il y a 4,4 milliards de requêtes sur le moteur de recherche Google. Chaque mois. Et j'ai un chiffre qui date de septembre 2008. Aux USA, dans la recherche d'informations sur Internet, 64% des recherches sont faites sur le moteur de Google, 20% sur Yahoo, et le reste sur les 29 998 autres outils de recherche de Google. Vous voyez, la domination est absolument totale sur la recherche d'informations. Qu'est-ce que Google ? C'est 1 million d'ordinateurs en réseau. Je parle de la société commerciale. 1 million d'ordinateurs en réseau. C'est-à-dire, on va en parler tout à l'heure, sur ces fameux centres de données. Là aussi, on en parle très peu et on montre très peu de choses. La société Google, qui n'a que 20 000 salariés, est une infrastructure à l'échelle planétaire d'un million d'ordinateurs, de serveurs et de centres de données. Plus vous référencez un site, plus vous parlez d'un site, plus vous utilisez Google et plus Google s'améliore. Donc il se sert de vous pour améliorer ses résultats. Car il enregistre toutes vos données, il enregistre vos requêtes, il enregistre véritablement vos requêtes, et plus on référence un site, et plus le site monte dans la hiérarchie. Vous êtes donc tous des employés de Google, à titre gratuit. Autre caractéristique de Google, Google est un modèle gratuit. C'est énorme. Il est gratuit. Gratuité totale de l'usage. Vous ne payez pas pour utiliser Google. Et pourtant, Google fait des chiffres d'affaires pharaoniques. Pourquoi ? Qui a une réponse ? Pourquoi Google gagne de l'argent, énormément d'argent ? Liens sponsorisés et publicité. Or, la logique de Google, c'est celle toujours de la modestie, c'est-à-dire celle de la discrétion. Regardez bien l'interface de Google, d'ailleurs on va aller la voir quand même. Voyez bien, c'est une interface extrêmement légère, ergonomique. C'est l'inverse de Yahoo. Yahoo est un modèle fermé, c'est un portail, il est fermé sur lui-même. L'objectif stratégique de Yahoo, c'est une fois que vous êtes sur le portail, vous n'en sortez plus. On fait en sorte que vous ne sortiez plus de ce portail. Eh bien, Google a une stratégie redoutable qui est exactement l'inverse. Il vous invite à aller ailleurs. C'est même son principe premier. Allez voir ailleurs. Plus vous irez ailleurs, plus je serai puissant. C'est pour ça que Yahoo se plante, globalement. Alors que Yahoo, je vous le rappelle, dans les années 90, c'était la société qui dominait l'Internet mondial. Donc là, c'est au contraire du vide, de la légèreté, une interface, moi j'appelle ça une interface de discrétion, et si je tape un mot-clé au hasard, j'ai ici des résultats. Comment ? J'ai ici des résultats, et voilà la publicité. C'est-à-dire que la publicité existe, mais elle se voit très très peu. Et donc les gens n'ont pas peur. Les gens utilisent ça comme un modèle gratuit. En fait, on pourrait dire que Google utilise les habits, c'est un masque, ils utilisent les habits du domaine public. Ils ont l'image du domaine public, la mise en scène du domaine public, alors que c'est un système commercial redoutable. Donc une clarté et une extrême simplicité de l'interface. Autre caractéristique de Google, Google s'adapte à l'économie numérique. Je vais vous la résumer, cette économie numérique. C'est une économie de l'attention. Pas l'attention, de l'attention. C'est-à-dire que si vous voulez exister sur Internet, que vous soyez une structure ou un individu, on doit faire attention à vous. Donc vous allez mettre en place des stratégies pour qu'on fasse attention. C'est une économie de la réputation. Complètement nouveau, ça. À cause du web 2.0, là, j'ai pas le temps de développer, peut-être avec les petits étudiants demain, mais j'ai pas le temps de développer. Une économie de la réputation et de la confiance, trust economy. Pourquoi ? Bah regardez, je suis ici en train de vous parler. Qui me dit que la moitié d'entre vous demain ne va pas alimenter un blog ? En fait, je suis face à 50 blogueurs sur les 100 personnes. Que ces 50 personnes vont rentrer à la maison tout à l'heure, vont créer un post, un billet sur leur blog, pour dire que la conférence de Pascal Desfarges, c'était très très nul. Eh bien, commercialement, je suis mort. Car si Sylviane Sambor, ma cliente, tape Pascal Desfarges demain et qu'elle voit 30 blogs qui disent que c'est lamentable ce qu'on a entendu hier, je suis commercialement mort. Si vous tapez Pascal Desfarges, comme le moteur de recherche Google est extrêmement sensible à l'actualité, il va valoriser, ça fait partie de ses critères aussi, les dernières informations publiées. Vous serez dans les résultats si vous tapez mon nom. D'accord ? Ça veut dire que commercialement, je suis mort. Économie de la réputation. Donc j'ai très. Alors, l'inverse aussi. Oh, c'était formidable la conférence de Pascal Desfarges. 30 blogs le disent. Je suis commercialement très puissant. Et je dois ça à qui ? À qui je dois ça ? À Google. Non, à Google. Car Google me permet de me montrer et d'exister. Autre caractéristique de cette économie, une économie de niche. Une économie de niche. C'est fini l'économie mondiale globale, ça c'est Microsoft. On rentre dans une économie de l'ultra-spécialisation, de la niche. Je vous donne un exemple que je donne souvent en cours, soit en fac, soit dans les formations bibliothécaires. Vous connaissez l'association des gens qui se scotchent au plafond ? Non ? Vous ne connaissez pas ? 48 000 membres dans le monde, réseau social interactif avec site internet et portail. Tous les ans, septembre, dans le Kansas, il y a un grand événement de scotchage au plafond. Je ne plaisante pas. Hein. Ces 48 000 personnes se réunissent dans un grand événement, dans un symposium, où les gens se scotchent et font des parties de scotchage. On se scotche physiquement, on scotche les familles, les bébés, les enfants. Et c'est formidable, on partage cette passion commune du scotchage au plafond. Il y a 15 ans, quel est votre prénom ? J'étais avec Rodolphe, près de Poitiers dans une ferme, et nous, on se scotchait au plafond, on faisait une après-midi à se scotcher au plafond, pour se dire, Rodolphe et moi, on est unique au monde. Il n'y a que nous pour faire ça. Nous sommes dans l'extrême singularité. Nous sommes des êtres singuliers. Avec le réseau web qui n'a pas de centre, qui est une grille, le singulier se réunit en communauté. À partir du moment où il se réunit en communauté, c'est un réseau social, et ce réseau social devient une niche. Ça va pour l'instant ? Alors maintenant, je suis vendeur de scotch. C'est un peu les galettes de Pont-Aven avec Jean-Pierre Marielle qui vend des parapluies, le film. Hein, vous savez, il passe de quincaillerie en quincaillerie, enfin de quincaillère en quincaillère, et il vend des parapluies. C'est fini ça, c'est le truc à la papa du VRP. Maintenant, le VRP 21e siècle, il va au Kansas. Il identifie sur le web la niche et devant lui, sans rien faire, la seule chose qu'il a à faire, c'est de savoir chercher sur Google. Eh oui. Mais en sachant chercher sur Google, il trouve la Confédération internationale des gens qui se scotchent au plafond. Il a donc devant lui 48 000 clients. Il va s'inscrire sur le réseau social, il va aller à l'événement, il va ouvrir sa boîte et va dire « Mon scotch est bien meilleur que celui que vous utilisez. Vous l'achetez ?» C'est ça l'économie de niche. Eh bien, Google a parfaitement compris cette logique commerciale. Il va valoriser les communautés, les réseaux sociaux, hein, et donc faire fonctionner pleinement l'économie numérique, puisqu'il sera, lui, en tout premier dans l'interface, dans la chaîne, dans la grille de l'économie numérique. Il sera le premier point d'entrée. Pas le deuxième, pas au milieu. C'est lui l'entrée vers le monde commercial. Vous m'interrompez, hein, si vous n'êtes pas d'accord. Autre caractéristique de Google n'est pas un site internet. Oubliez. Google, c'est une plateforme de service. Plateforme de service. Redoutable. Hein ? Qu'est-ce que c'est une plateforme ? Une plateforme de service, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous créez une adresse Gmail, une adresse de messagerie, vous avez entrée sur tous les services de Google. quelques services de Google. Et on va en décrire quelques-uns. Hein ? Google vous permet de créer des documents en ligne, c'est-à-dire de se passer de Microsoft Word. Google Doc permet de créer un tableau style Excel, donc logiciel en ligne, c'est une logique qui est en train de se développer. Google vous propose une palette de services. Chaque palette de services est liée à une économie, et dans cette palette de services, il y a le livre. Mais le livre, remarquez, le livre, je ne sais plus où il est là. C'est un service parmi une centaine de services. Google est donc une plateforme. Et chaque service est en relation étroite avec l'autre. Qu'est-ce que Google Maps ? Qui utilise Google Maps ? Un peu moins déjà, là. Alors, parlons de Google Maps. Google Maps, dans la stratégie de numérisation du monde de Google, c'est la prise de pouvoir par Google sur toute forme de territorialité, de territoire. Google a comme objectif la numérisation du territoire à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Pour ce faire, ils ont deux outils. Le premier s'appelle Google Maps et le deuxième s'appelle Google Earth. C'est quoi Google Earth pour vous ? Comment on pourrait résumer ? C'est quoi Google Earth ? Hein ? Photo aérienne. C'est ça pour vous, Google Earth ? Google Earth représente la map monde du 21e siècle. Vos map monde en plastique avec la petite ampoule au milieu et la prise électrique. Poubelle. C'est la nouvelle map monde de ce nouveau monde. C'est une map-monde interactive, en relief, et maintenant en 3D avec sa technologie Street View. On peut rentrer dans les rues. Hein. Et c'est une map-monde que je peux indexer en termes d'informations. C'est-à-dire que je peux prendre une rue et coller des petits tags en disant, ben voilà, là, il y a le musée des Beaux-Arts, mais là, il y a aussi la boulangerie, là, il y a la boucherie, et je peux même afficher sur Google Earth le prix du pain, hein, ou le prix de cet antiquaire. C'est-à-dire que Google vous propose une interface gratuite pour votre expression. Et là, il y a le festival de poésie. Hein, pour inscrire des données à l'échelle planétaire. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous montrer quelques exemples. Le premier exemple, c'est cette carte. Le web. Vous reconnaissez Google Maps ? Ça, c'est le taux de remplissage de Wikipédia en temps réel. Vous savez l'encyclopédie Wikipédia ? Vous voyez ? Il y a 7 minutes, il y a quelqu'un qui a écrit un article sur Dreux à Limoges. Oh ! Il y a quelqu'un qui a Pont-Thierry a écrit un article sur Gabriel Obertan. Oh, il y a 8 minutes. Ah, là, voilà. Il y a Jean Alaria. Enfin, on a écrit un article sur Jean Alaria à Livron, en France. Il y a 5 minutes. C'est le taux de remplissage de Wikipédia. On se sert de la carte Google Maps pour territorialiser l'inscription de l'information sur Wikipédia. Ça, c'est du temps réel à quelques minutes près. Deuxième. Comment ? Ah non, ça c'est simplement le Wikipédia France. Si vous aviez Wikipédia de toutes les langues, vous ne pourriez même pas lire les affichettes. Ce qui montre ce qu'est le web 2.0, c'est-à-dire un web où l'internaute est producteur d'informations lui-même sur Internet à une vitesse permanente dans un flux tendu d'informations. L'information devient liquide. Deuxième utilisation possible. Vous connaissez le Monopoly ? Rien de mieux que le Monopoly pour penser les territoires. Le Monopoly à Paris, le Monopoly à New York, le Monopoly de Rome. Et ben, je vous présente le Monopoly mondial. Mondial, qui correspond à la planète entière. C'est un jeu, hein, c'est en ligne. Donc là, bon, on ne va pas le faire, on n'a pas le temps. Sinon, on va jouer. Hein ? La possibilité, si vous vous inscrivez, de jouer au Monopoly mondial. C'est-à-dire que là, vous allez acheter des maisons, des hôtels, vous allez mettre des hôtels dans les rues de Poitiers, hein, et vous allez acheter une ville entière. Il y a à peu près 150 000 personnes dans le monde qui jouent à ce jeu en permanence, c'est-à-dire on achète le monde. Et on utilise, on achète virtuellement, c'est un jeu, hein, et on utilise la carte Google Maps. Ça, c'est quelques exemples de territorialisation de l'information. C'est juste pour rigoler. Maintenant, je vais vous montrer une chose un peu plus sérieuse, qui est ce site internet, et qui montre bien, à mon avis, l'emprise que va avoir Google sur les territoires. Alors, vous voyez, ce site s'appelle Housing Maps. C'est, je vous présente, la plus grande agence immobilière des États-Unis. Si vous voulez louer un appartement aux États-Unis, vous passez par Housing Maps. Vous allez dans une ville américaine, je vais aller dans ma ville préférée de tous les temps, San Diego, langue majoritaire, l'espagnol. Voilà, je suis à San Diego, vous voyez que c'est Google Maps, hein. Et puis je me dis, tiens, je vais louer un appartement, je vais partir 15 jours à San Diego, Californie du Sud, à quelques kilomètres du Mexique. Et je vais... Ah, c'est en temps réel, donc les pastilles rouges, l'appartement vient d'être loué. C'est bête. La pastille jaune, par contre... Alors, il faudrait que ça charge. Avec le vidéoprojecteur, ça ne marche pas forcément très bien. On peut peut-être changer. Normalement, vous avez les photos de l'appartement. Hein. C'est le décalage... Ah ben ça y est, c'est que ça met du temps. On va laisser charger. Ça veut dire que si je veux louer cet appartement, je vais passer par ce site, j'ai les informations pour contacter l'agence immobilière, je vais voir les photos de l'appartement et je vais louer en temps réel, sur Internet, cet appartement. Ça va ? L'agence achète un droit d'usage de Google Maps. Comment ont-ils fait ? Comment ont-ils fait ? Ils ont négocié avec toutes les agences immobilières des États-Unis. La négociation est la suivante. On numérise vos appartements, on prend des photos numériques, on met en ligne votre proposition de location, hein, et c'est gratuit. Tout est gratuit. Exactement comme dans l'exemple qu'on va suivre après, c'est-à-dire celui des bibliothèques. La même logique. Je numérise gratuitement le catalogue de la bibliothèque municipale de Lyon, deuxième bibliothèque de France. Donc on numérise. Une fois que c'est numérisé, c'est gratuit, on met ça en ligne. Vous avez ici la plus grande agence immobilière des États-Unis. Maintenant, prenons le cas de figure d'une agence qui refuse ça. Vous croyez que les digital natives, c'est-à-dire les natifs numériques, je sais, j'en ai une à la maison, créature bizarre, 14 ans, née avec le web, qui fonctionne dans son accès au savoir exclusivement sur une visualisation, jeux vidéo, PlayStation, téléphone portable, hein, j'ai pas le temps de développer, vous croyez que ces digital natives, qui seront les futurs clients dans 15 ans, quand ils seront dans le monde actif de ces agences, vont aller s'embêter à aller à Poitiers dans une agence immobilière pour voir la vitrine et dire « Oh, il est bien cet appartement !» Ils n'ont pas le temps, ils feront ça sur le web, vite fait. Surtout que la prochaine étape de ce site, c'est un accord avec le logiciel Skype et la webcam. Donc l'agent immobilier, il s'équipera d'une webcam sur sa petite épaule et puis il fera visiter en temps réel l'appartement. Et vous serez derrière votre machine, disant, oui, ça me plaît, mais j'aime pas la vue, là. Vous n'avez pas autre chose à me présenter ? Est-ce que ça va ? Ben quoi ? Bien. Vous avez compris la logique ? Ok, ça veut dire qu'une agence immobilière dans 15 ans qui refuse de rentrer dans ces systèmes de visualisation d'informations, elle est morte. Elle est morte. Sauf si elle propose des maisons de luxe extrêmement rares, faites par de très grands architectes, hein, Norman Foster et la villa à San Francisco. Sinon, elle est morte. Alors maintenant, allons plus loin. Allons plus loin. Ça, c'est les agences immobilières et les vétérinaires. Les garagistes, les brocanteurs, les médecins. c'est-à-dire toute forme d'artisanat, les entreprises, les bibliothèques. Tout va passer par ce système. Tout va passer par la cartographie d'information de ce système. J'arriverai dans une ville, j'aurai besoin d'une bibliothèque municipale, j'aurai besoin d'un boulanger, j'aurai besoin d'un dentiste, j'aurai besoin d'un garagiste, grâce à mon téléphone portable, où j'ai Google Maps, et où j'ai un système de géolocalisation qui permet de me géolocaliser. Vous voyez, là, il sait que je suis à l'espace Mendès France, donc ça veut dire que Google sait. Hein. Vous voyez ? Mais j'aurais besoin d'un service, j'irai là. Je ne demanderai même plus à quelqu'un dans la rue. Et puis en plus, je pourrais passer de Google Maps à Google Earth, c'est-à-dire d'une carte abstraite à une visualisation concrète en 3D de la rue où je suis. Donc je saurai exactement où est le service. Vous voyez, on s'intéresse un peu trop, d'un peu trop près, aux moteurs de recherche de pages web. Et on ne s'intéresse pas du tout à d'autres logiques de Google qui sont pourtant exactement les mêmes. Ça va ? Vous n'avez pas peur ? Bien. Je continue alors. Je signale aussi que, comme Google a parfaitement compris que les technologies allaient être nomades, qu'elles allaient même un jour intégrer le corps humain, ils ont développé leur propre système téléphonique, hein, leur propre interface de téléphone qui s'appelle Android, hein, et qui est en train de se positionner sur des tas de marques de téléphones, bien entendu. Mais ça, c'est juste pour rigoler. Hein. Nanotechnologie oblige, absolument. Ça va ? Oui. Alors on va aller un peu plus loin. J'ai pas le temps de développer tous les services parce que je voudrais parler du livre dans la deuxième partie. On va aller un peu plus loin. Je vais vous montrer une petite société commerciale, toute jeune société commerciale californienne, qui débute. Donc faut être assez, elle est humble aussi. Et on va parler bio. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais cette logique de la modestie, de faire du bien, don't be evil, elle a même dans le domaine écologique. C'est le même discours. Revenons à des vraies valeurs, arrêtons les produits chimiques. Il y a des tas de gens qui font un argent considérable sur le dos de l'écologie aujourd'hui. C'est-à-dire que ce modèle de la discrétion, ce modèle de la modestie, est un modèle capitaliste hyper performant qui s'applique à des logiques industrielles aujourd'hui. Et on a beau me parler des écologistes, une grande partie des écologistes sont dans une logique industrielle de captation d'argent, tout simplement. Hein. Je vous signale que, je sais pas, les gens qui fabriquent des éoliennes font fortune aujourd'hui. Hein. Par exemple. Hein, par exemple. Alors, vous voyez ma petite société commerciale sympa ? Je vous explique. Je vais prendre le micro. Quel est votre prénom ? Yves-Jean. Nous avons Yves-Jean ici. Alors voilà, Yves-Jean va s'adresser à cette société commerciale californienne et va payer la modeste somme de $440, je crois que ça fait 320 euros, et va recevoir une petite boîte. Dans cette petite boîte, il y aura des petites lamelles et il pourra mettre sa salive sur les lamelles. D'accord ? Puis il va renvoyer cette boîte à la société commerciale qui va établir la carte génétique informationnelle d'Yves Jean. C'est-à-dire sa carte génétique, sa cartographie en termes de gènes. Et qui va pouvoir en déduire de manière extrêmement sérieuse et crédible. C'est-à-dire que c'est pas, hein, ce n'est pas une escroquerie du tout, c'est les scientifiques qui sont derrière, c'est les biotechnologies, qui va déduire si Yves Jean est susceptible de développer telle maladie ou telle maladie, cancer, Alzheimer, etc. Et qui va proposer à Yves Jean, d'ailleurs, de changer son style de vie. Yves Jean, il faut arrêter de manger du boudin noir. il vaut mieux manger du céleri rave bouilli. D'ailleurs, le céleri rave, il y a une très bonne marque. D'accord ? En d'autres termes, cette société commerciale capte la carte génétique des individus moyennant finance. Elle double son chiffre d'affaires tous les mois. Pourquoi ? Parce que, évidemment, si on établit votre carte génétique, on dit aussi ce que vos enfants risquent d'avoir comme maladie dans les années qui viennent. Et que scientifiquement, c'est assez crédible. C'est-à-dire que les résultats, ce sont des scientifiques derrière. Des scientifiques qui travaillent dans le privé, mais des scientifiques quand même. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Bien. Alors, cette société est développée par une jeune femme qui s'appelle Anne Wojcicki, qui a 28 ans et qui est une biogénéticienne de génie. Vraiment. Quelqu'un qui est absolument surdoué et qui a développé cette société commerciale. Je vais vous montrer sa photo. Alors, la photo d'Anne, mon ami. Voilà sa photo. C'est elle, Anne, qui a fait la société qui est derrière. Elle a l'air sympa, hein ? Et lui aussi, il a l'air sympa. C'est son amoureux, enfin, c'est son mari. C'est qui ? C'est Sergey Brin, coprésident de Google Incorporation. C'est son mari. Et Google a investi 35 millions de dollars sur cette société commerciale indépendante. C'est sympa comme... Alors, je voulais vous montrer, j'en profite, hein. Je voulais vous montrer, parce que j'avais décidé de vous montrer des choses très concrètes. Arrêtez de parler de virtuel. Qu'est-ce que c'est Google ? Ben Google, c'est ça, par exemple. Google, c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous avez dans le monde entier des gens qui ont des petits vélos. Ils ont des petits vélos. Eh, c'est écologique. Hein ? On est bien dans la logique de l'écologie, c'est des vélos. Et qui se promènent, c'est à Rome, là, hein ? Vous reconnaissez Rome, la fontaine ? Et qui numérisent absolument toutes les rues de Rome, mais de Paris, y compris de Poitiers. Ils vont dans toutes les villes de France avec leurs petits vélos. Comment ? Ils vont être fatigués à Poitiers en vélo, peut-être ? N'empêche que c'est pour vous montrer, pour qu'on sorte du virtuel. Hein, c'est pour qu'on sorte du virtuel. C'est pour vous montrer que la captation de l'information par Google, c'est une logique industrielle et que c'est du très très concret. Hein, je pourrais vous montrer aussi, parce que ça ne s'arrête pas là. Ouais, je ne sais pas si je l'ai là. La numérisation du territoire. Voilà, la numérisation du territoire par Google, pour faire Google Earth. Vous voyez que c'est satellites, avions qui tournent. Ils achètent, à des bases de données, ils achètent à Spot, par exemple, pour la France. Ils vont acheter les cartes satellites. Ça, c'est la version 1 de Google Earth. Mais... si maintenant ils sont assez puissants pour entourer la planète de petits satellites CubeSat, société californienne développée à Stanford University, tiens, la même université, qui est capable de vous vendre un satellite personnel. Donc si j'égrène comme le petit poussé, si j'entoure la planète de micro-satellites, je capte la planète en temps réel. D'accord ? En ce moment, je n'accompagne aucune société commerciale dans mon travail, j'en accompagne une, j'ai signé avec l'ultralibéralisme il y a très peu de temps, puisque je suis chargé d'accompagner et de former l'ensemble du groupe Canal+ à Internet et aux cultures numériques. Eh bien, si j'entoure la planète de petits cubes, je fais de Google Earth le plus grand studio de télévision du monde. Puisque là, les cartes ne seront pas des cartes anciennes, ce sera le temps réel. Et peut-être qu'un jour, en 2030 ou 2040, vous acheterez le droit de voir. De voir quoi ? Un match de foot, bien sûr, de l'événementiel, mais aussi une guerre en temps réel. Bien entendu. Vous pourrez zoomer sur une guerre en temps réel et vous paierez pour ça. Ça va ? Alors, évidemment, et c'est là où moi je rentre dans le paradoxe, dans un paradoxe permanent, c'est que je suis désolé, hein, alors vous allez peut-être me prendre pour un monstre, hein, mais moi je trouve ça formidable. Vraiment. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir avoir Google Earth. Je trouve ça extraordinaire de taper des mots-clés dans le moteur et de trouver des informations précieuses quand on sait chercher. Je trouve que c'est des outils extraordinaires. Donc je suis dans un paradoxe complet, car plus je les utilise, plus je fais évoluer la puissance de captation d'informations de Google. Mais Google n'est pas le seul à faire ça. C'est ça aussi qui moi, me gêne dans le discours sur Google. Là, je vais commencer à amener, hein, je vais faire l'avocat de Google un peu, l'avocat du diable. C'est que Google n'est pas le seul, la seule démarche qui va dans cette logique-là. Je vais vous montrer, attends que je le retrouve, je vais vous montrer deux sites. Le premier, c'est celui-là. C'est un site de bibliothèque que je montre souvent. Le réseau est lent. Voilà. C'est la bibliothèque universitaire du Texas aux États-Unis. Dallas, Texas. Je vous avais devant vous le plus grand atlas du monde. 270 000 cartes numérisées, système ouvert et pour l'instant gratuit. Ce plus grand atlas du monde, d'ailleurs, ça veut dire que dans pour nos aimés bibliothécaires documentalistes qui sont là, vous pouvez jeter tous vos atlas. Hein. Vous allez juste sur ce site, tout est là. Et cet atlas du monde, ce n'est pas Google. C'est l'Université du Texas aux États-Unis. Si je vais, alors je fais comme ça, hein, je vais sur les cartes historiques de l'Europe, c'est énorme, hein. Ça correspond à peu près à 4000 atlas que vous poseriez sur un mur. Hein. Oui. Sur le site, oui. Très juste. Absolument juste. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, je vous montre une carte parmi les 270 000, je l'adore cette carte. Nous sommes au Texas, hein, à Dallas. Ceci est la carte des mines d'or en Corse en 1898. J'ai bien des mines d'or. Et vous avez la carte du Gallo-Romaine, la carte de Londres en 1500. C'est énorme. C'est le plus grand atlas du monde. Ce n'est pas Google qui porte cette numérisation du savoir. C'est une université américaine. Et là aussi, il faut sortir un peu de se focaliser uniquement sur Google. Qu'est-ce que j'en déduis, moi ? J'en déduis que les États-Unis ont parfaitement compris, comme la France d'ailleurs, mais pas avec les mêmes moyens, parfaitement compris que le levier économique du monde dans les prochaines années, c'est l'information. Je pourrais résumer les choses. Hein. Au XIXe siècle, qui détenait le charbon et était capable de le traiter était puissance mondiale, germinale. Au XXe siècle, c'est le pétrole et le nucléaire. Au XXIe siècle, c'est l'information et l'hydrogène. D'accord ? Donc si vous voulez investir dans des sociétés commerciales, toute société commerciale qui gère de l'information ou qui met en place des technologies liées à l'hydrogène, bon investissement pour les actions. Hein ? C'est ça que j'essaye de vous montrer, de sortir un peu de Google pour vous montrer que ce n'est pas une logique uniquement... Alors il se trouve que Google a été la première et a mis... elle est à échelle véritablement industrielle. Je vais vous en montrer un deuxième site, puis après on va passer au livre. Que sûrement plein de gens ici connaissent, hein, notamment qui est archive.org, très célèbre site, très très célèbre site. Bibliothèque du Congrès des États-Unis, numérique. Et archive.org indexe un certain nombre de choses formidables. Hein. Si vous allez, je ne sais pas moi, dans Moving Image, vous aurez les 40 premiers épisodes de Fritz le Cat, 1925, dessin animé, gratuit, téléchargeable, libre de droit, domaine public. D'accord ? C'est énorme, cette bibliothèque est énorme, formidable. Mais elle a une petite chose, une petite outil, moi, qui me pose un petit problème. Cette petite outil, vous voyez, s'appelle le Wayback Machine, la machine de retour en arrière. Qui peut me donner le nom d'un site internet ici, là, à Poitiers ? Le site de la mairie, c'est quoi ? www. Poitiers.fr. Voilà, j'ai inscrit l'URL de ce site, c'est-à-dire l'adresse web. Quel est l'objectif de la Wayback Machine ? Les bibliothécaires de la bibliothèque archive.org indexent et trient les sites web qui leur paraissent intéressants en termes de contenu. Quand je dis index, c'est-à-dire qu'ils captent toutes les pages du site et les archives dans des disques durs. D'accord ? Donc je vais voir si la mairie de Poitiers représente pour archive.org un site intéressant. Ça cherche hein, dans la base de données. Ah oui ! Oui. Oui, la mairie de Poitiers est indexée par les bibliothèques du Congrès des États-Unis. Je sais que la stratégie numérique de la mairie de Poitiers commence le 16 février 1998. Je sais donc que la mairie de Poitiers, d'ailleurs, est assez... Je suis surpris. Hein. Enfin, sinon, je ne suis pas surpris, parce que Parthenay, ville numérique et tout, en fait, c'est normal. La région a été en avance sur le numérique ici, en termes de territoire numérique. Et donc, je sais que la stratégie de Poitiers, c'est 1998. Je peux vous jurer que si vous allez voir le webmaster de la mairie, d'accord ? Et vous lui dites « Bonjour monsieur, est-ce que vous avez la vieille page du site internet de la mairie du 16 février 1998 ?» Je peux vous jurer qu'il n'a le plus. Eh bien, archive.org, lui, là. Et vous pouvez prendre, bah évidemment. Bien sûr. Tout à fait. Oui, alors si vous cliquez sur les pages, vous y allez. Hein. Qu'est-ce qu'a fait ? Quelle est la logique là ? Eh bien, c'est une logique très intelligente. C'est une logique très intelligente. C'est se dire que le web, les pages web, étaient un patrimoine. Parce que soit il y a la mairie de Poitiers, mais imaginez maintenant un grand philosophe, un grand scientifique qui laisse ses travaux en ligne, des articles scientifiques, et qui le retire. Un an après, archive.org détient ses articles. Énorme problème juridique, sans aucune autorisation. Vous croyez qu'ils ont demandé l'autorisation à la mairie de Poitiers ? Et pourtant, nous ne sommes pas chez Google. Vous voyez donc que cette logique de numérisation mondiale de l'information n'est pas simplement dédiée à Google, même si Google est le maître de tout ça. On s'aperçoit que les grandes universités, les grandes bibliothèques, beaucoup de sociétés privées, indépendantes de Google, sont sur ces logiques de captation et de numérisation de l'information. Qui nous dit que dans 3 ans, on ne nous fera pas payer, pas cher, hein, que la bibliothèque, la médiathèque municipale de Poitiers ne devra pas payer l'accès au plus grand atlas du monde. Pas cher, hein. Ça coûtera 1 euro par mois. C'est pas cher. Ça veut dire que ça coûtera, pour accéder au plus grand atlas du monde, 12 euros par an à la médiathèque de Poitiers. Maintenant, vous multipliez par le nombre de bibliothèques dans le monde. Dans le monde. Hein. Et vous voyez la manne financière que représente juste l'accès. On est absolument d'accord. Tout à fait. Ils ont acheté, mais ils achètent effectivement. Ça fait plus d'un siècle, même le milieu du 19e siècle. Ils ont acheté déjà des archives. Et la France aussi. Hein. La France est loin d'être en retard. Hein. Elle est en retard en termes technologiques et en termes de volume d'informations. Ça, c'est... Mais en termes de conscience des enjeux, hein, Gallica, etc., elle est présente. C'est d'ailleurs un des rares pays dans le monde qui est présent dans cette numérisation de l'information. Pourquoi ? Parce que nous aussi, depuis Colbert, on a, et même depuis les monastères cisterciens et bénédictins, on a aussi une tradition d'archivage très importante en France. Donc, d'où le fait d'ailleurs que Google Book est très très intéressé par le territoire français. Parce qu'il y a d'énormes archives. Des questions ? Non ? Oui. Les deux. Il y a quand même un petit logiciel avec un algorithme. Mais c'est, par contre, le choix et l'indexation des pages, c'est effectivement des démarches de professionnels, c'est-à-dire de documentalistes et de bibliothécaires professionnels avec une indexation classique. Dernier élément. Oui. Alors, c'est exact, mais c'est Gallica. La BNF, effectivement, indexe les sites web, les livres, de la même manière, mais avec un volume ridicule comparé. Donc, c'est la même logique, mais avec des moyens, on va le voir justement sur la numérisation, des moyens qui sont très, très légers par rapport aux moyens américains. Mais oui, oui, tout à fait. Dernière dimension très importante, ce qu'on appelle l'informatique en nuage. Qui connaît ? Cloud computing. Ça aussi, c'est une dimension qui émerge aujourd'hui, qui ne correspond pas d'ailleurs uniquement à Google, hein, software as service, c'est-à-dire que, si je voulais résumer les choses, toutes vos données, vos informations personnelles, votre boîte mail, le contenu de votre disque dur, vos images personnelles, vos vidéos, votre compte en banque, la caisse d'allocation familiale, je pourrais tous les services humains, vont être déportés de votre ordinateur, externalisés, et c'est en train de se faire, hein, externalisés dans des fermes de données, data centers, centres de données, silos numériques, ça c'est des expressions qui sont issues, de ce cloud computing. C'est-à-dire que vous serez derrière votre machine, vous êtes derrière votre machine n'est plus qu'un terminal de connexion qui se connecte à des serveurs d'information. Ça veut dire que ces serveurs d'information maîtrisent vos informations. À tout niveau, je n'ai pas le temps de détailler, hein, marketing, etc. Mais surtout, vous n'êtes plus maître de vos informations. Vous avez un login et un mot de passe, vous consultez votre compte en banque, la caisse d'allocation familiale, vous allez chercher vos mails, vous allez chercher vos photos que vous avez vous-même mis en ligne, Flickr, vous allez chercher vos données et vos données s'externalisent. Hein. Michel Serres dit qu'on perd notre mémoire, qu'on est tous des Saint-Denis avec la tête coupée dans... Hein, j'ai pas le temps de détailler. On perd la mémoire en ce moment, pourquoi ? Bah parce que la mémoire, elle est présente, mais elle est externe. D'ailleurs, toute l'histoire du livre est une longue histoire de processus de perte de mémoire. Hein, les aèdes grecs, eux, ils n'avaient pas besoin de livres. La création du livre, c'est déjà l'externalisation du savoir, enfin, du savoir, de l'information. Et là, on rentre dans un processus industriel avec l'informatique en nuage, où carrément la mémoire mondiale est une archive externe à l'être humain. Tout à fait. Tout à fait. Le problème, c'est qui maîtrise cette externalisation ? Alors, pour que ce soit concret là aussi, cette externalisation, ce sont des data centers. Ces data centers, c'est les fameux 1 million d'ordinateurs de Google, qui sont dans des infrastructures technologiques très lourdes, qui sont comme exactement à l'image des raffineries de pétrole. C'est assez curieux d'ailleurs, ça ressemble physiquement, hein, qui sont des infrastructures très lourdes, qui comprennent des centaines de milliers de serveurs qui contiennent vos informations avec des systèmes de refroidissement, etc. Donc là, on n'a pas le temps de rentrer véritablement dans le détail, si ce n'est que j'avais une petite vidéo à vous montrer, pour que ce soit concret. Pardon. Juste comme ça, on ne va pas l'avoir jusqu'au bout. Hein. Mais c'est une vidéo que vous trouvez sur YouTube. Hein. YouTube qui appartient à... Vous êtes sûr ? Oui. Évidemment, hein. Archivage des cartes, archivage des satellites, archivage des livres, archivage des sites web, archivage de toutes les vidéos, archivage des sons, archivage de tout. Donc aussi les vidéos. Hein. Donc vous voyez, vous avez... pardon. Vous voyez, c'est très concret. Ça n'a rien de virtuel. Hein ? Ces centres de données, ces data centers, ces fermes de données sont extrêmement protégés, vous imaginez, au niveau du terrorisme, ce que ça implique, par exemple. Que ce n'est plus les Twin Towers qui pourraient être visés, c'est que si je fais exploser ces silos de données, comme les silos de blé ou la raffinerie de pétrole, j'explose vos données personnelles. D'accord ? Si les 500 000 livres qui vont être numérisés à la bibliothèque municipale de Lyon sont dans ces centres de données, si ces centres de données explosent, la numérisation de ces livres explose avec. Hein. D'accord ? Je vous laisse réfléchir sur les données futures. Je n'ai pas le temps de détailler non plus. Sachez qu'une donnée numérique est périssable. C'est un leurre de se penser qu'une donnée numérique n'est pas périssable. Elle est extrêmement périssable, peut-être beaucoup plus d'ailleurs que le livre papier. Et pourtant, j'adore les données numériques. Là aussi, je suis dans un paradoxe complet. Donc voilà, vous voyez, je ne vais pas aller plus loin, mais vous voyez ce qu'est un centre de données. Je trouve qu'on ne montre pas assez aux gens, concrètement, à quoi ça ressemble. Alors qu'on montre les raffineries de pétrole. Mais le pétrole, comme c'est fini, ce n'est pas très grave. Alors maintenant, passons au livre, justement. Évidemment, dans cette chaîne de captation et de numérisation de l'information à échelle mondiale, le livre pour Google est un enjeu considérable. C'est un enjeu considérable, mais en même temps, ça rapporte rien. Est-ce que vous êtes allé souvent sur Google Book, le moteur de recherche de livres ? Qui va sur Google Book voir des livres ? C'est minable, vous êtes 3, hein. 4. Et pourtant, on n'arrête pas d'entendre parler de Google Book. Alors, il faudrait savoir. Hein, c'est un enjeu considérable, mais personne n'y va. Et pourquoi Google, alors, investit tant d'argent hein, sur Google Book, puisque ce n'est pas rentable. C'est un service qui n'est pas utilisé encore par les gens. Alors, d'où vient ce projet ? C'est un projet, d'ailleurs, qui est assez vieux. Hein, de la part de... Faut que j'enlève le... Je vous sens perturbé par le petit film, là. Voilà. C'est un projet qui date de 2004. Projet de bibliothèque numérique mondiale porté par Google. Là aussi, avec un discours très concret. D'ailleurs, j'avais noté aussi... L'argumentaire de Google est le suivant. Grâce à nous, vous aurez gratuité d'accès aux livres. Nous démocratiserons l'information. Nous rendrons accessibles les livres indisponibles, c'est-à-dire les livres épuisés ou les livres orphelins. Et nous favoriserons la législation sur les livres orphelins, c'est-à-dire ces livres qui n'ont plus de droit d'auteur. Hein. C'est ça l'argumentaire officiel. Hein. C'est dit dans les textes marketing de Google sur Google Book. Voilà, on ne connaît pas les ayants droit. On ne sait pas à qui revient les droits d'auteur. Mais pourtant, ils sont. Par contre, ils sont toujours sous droit d'auteur. Pour le moment, à l'heure d'aujourd'hui, en 2009, 10 millions d'ouvrages ont été numérisés par Google. C'est-à-dire que c'est sans aucune contestation la plus grande bibliothèque numérique du monde. la plus grande carte du monde, la plus grande bibliothèque numérique du monde, le plus grand répertoire de sites web du monde. D'accord ? Sur ces 10 millions, il y a quand même 6 millions de ces ouvrages qui sont épuisés. C'est énorme aussi. Évidemment, ils ont priorisé les ouvrages épuisés. Ça veut donc dire que les contenus de Google Books sont très riches, a priori. 1,5 million de ces ouvrages ont été traités dans un accord avec les éditeurs. Ça veut dire que tout le reste, il n'y a eu aucun accord. C'est-à-dire qu'ils ont numérisé les livres sans aucune autorisation. Et sur ces 10 millions d'ouvrages, il y a 150 000 livres français. C'est-à-dire que si vous allez sur Google Books, vous avez une bibliothèque de 150 000 livres. Quand même, pas mal, en français. Hein ? Français. Pour obtenir ce résultat des 10 millions d'ouvrages, Google a traité avec 29 grandes bibliothèques mondiales. Hein, bibliothèque de Stanford, bibliothèque de Berkeley, MIT Press, plein de choses. Hein, plein. Pas la BNF. La BNF, vous le savez, parce que dans le dossier de presse qu'on vous a distribué, on en parle largement. La BNF, c'est en pourparler. Hein. L'ancien directeur de la Bibliothèque nationale de France était opposé à la numérisation des livres par Google Incorporation. Aujourd'hui, c'est en pourparler. Je n'ai rien à dire là-dessus, car c'est évidemment une décision purement politique. Qu'on s'entende. Hein. Alors, en septembre 2005, c'est pour vous raconter cette histoire de la bibliothèque numérique, en septembre 2005, l'association des éditeurs américains et des auteurs américains, deux structures, se sont associées pour mettre un procès à Google, pour revendiquer les droits d'auteur. Hein. Et donc, voilà, ils ont imposé à Google l'idée que Google doit de l'argent aux éditeurs et doit de l'argent aux auteurs car ils ont numérisé sans autorisation. Je vais vous faire un résumé parce que c'est très long. Les épisodes aujourd'hui sortent pratiquement tous les jours. Il y a un article qui en parle. Quels sont, je vais vous faire l'actualité, hein, on va passer en octobre 2009 et en novembre 2009. Google est prêt maintenant, dans un accord avec les éditeurs et auteurs américains, a payé 125 millions de dollars hein, de droits d'auteur à la fois aux éditeurs et aux auteurs. Là, ils vont se les partager. Donc à indemniser les auteurs et éditeurs des livres qui ont été numérisés sans autorisation par Google. C'est passé en novembre, là, la justice américaine a validé cet accord. Donc Google va faire un chèque de 125 millions de dollars, ce qui est juste ridicule. Ridicule pas pour les éditeurs, parce que vous imaginez que Barnes & Noble ou un éditeur américain qui reçoit un petit chèque de 3 millions de dollars, c'est pas ridicule pour lui. Mais pour Google, c'est de l'argent de poche. C'est rien, 125 millions de dollars. La deuxième chose qui a été négociée dans cet accord, c'est qu'à partir de maintenant, quand un livre sera numérisé par Google, de chez d'un éditeur, hein, je sais pas, Gallimard, enfin non pas Gallimard justement, un éditeur américain justement, eh bien, si ce livre est vendu par Google, 37% de la somme reviendra à Google et 63% de la somme reviendra à l'éditeur. Inutile de vous dire que les éditeurs sont comme moi. Ils vont tous signer et tous rentrer dans une relation faustienne. Puisque Google s'occupe de tout. Il vend les livres de l'éditeur. Sous forme de livres numériques. Alors, face à cet accord, les éditeurs européens ont dit non, notamment allemands et français, ont refusé cet accord. Et donc maintenant, Google, s'il veut numériser les livres de chez Gallimard ou Mercure de France, il va être obligé de traiter directement avec la maison d'édition un accord particulier.
Oui. Je ne suis pas persuadée que c'est ce qui va se passer. Google va continuer à numériser les livres des éditeurs français, allemands, italiens, comme il le faisait déjà.
Sauf que là, il y a un acte de justice qui s'est passé.
Dans les conclusions qui sont tombées là, il y a quelques jours, la semaine dernière, il semble être dit que les éditeurs... Google ne dit absolument rien sur une quelconque modification du processus de numérisation qui est en cours à travers les bibliothèques. Et effectivement, dès lors que des bibliothèques françaises, par exemple, pour prendre le cas de la France, sont en train de basculer à travers la numérisation dans le monde de Google, dans la bibliothèque de Lyon, il y a effectivement des livres de tous les éditeurs français, bien évidemment, les gros, les petits, les moyens. Google ne dit rien sur ce qu'il va faire ensuite de ces livres qui vont exister sur sa base.
Mais ça, c'est reste ouvert.
Puisque dès l'année prochaine, la commercialisation va commencer sous support numérique, si ces livres sont commercialisés, Google laisse naturellement la possibilité aux éditeurs, ça s'est dit assez clairement, d'engager un procès aux États-Unis contre Google. Le rapport de force n'est pas toujours évident. Voilà.
Oui, très juste. Je continue. La bibliothèque municipale de Lyon a passé un contrat avec Google. Ce contrat est secret. Ce contrat est secret. C'est-à-dire que personne ne sait exactement, à part la bonne foi du directeur de la BM de Lyon qui parle du contrat, personne ne sait exactement ce qui s'est négocié. Qu'est-ce qui s'est négocié? Puisque je dis simplement ce qu'est l'interview du directeur de la BM de Lyon, tout simplement, c'est que Google, en fait, comment ça s'est passé? Parce que c'est très intéressant de voir concrètement comment ça se passe. Et là aussi, pas rester dans le virtuel. La bibliothèque municipale de Lyon, qui, je le rappelle, est la deuxième bibliothèque de France, après la BNF, a lancé un appel d'offres de marché public pour numériser ses collections. Ma foi, très bonne initiative. Dans le cahier des charges de cet appel d'offres de marché public, au BOAMP, dans le cahier des charges, il est dit la chose suivante, et ça, le cahier des charges, on l'a, donc on peut le lire. La société qui numérisera les collections de la bibliothèque municipale de Lyon devra le faire gratuitement. Gratuitement. C'est-à-dire on passe un appel d'offres de marché public pour finalement avoir une société qui numérisera des collections, mais de manière gratuite. La seule société au monde qui a les capacités technologiques pour le faire, c'est Google. C'est donc un faux marché public. Bien sûr. Et donc, Google est en train, là maintenant, de numériser les livres, 500 000 ouvrages, sur les 3 millions, je crois, 500 000 ouvrages de la bibliothèque municipale de Lyon. Concrètement, comment ça se passe ? Ils ont construit un centre de numérisation à 30 km de Lyon. Physique, une usine. Ils vont chaque jour chercher des livres dans un petit camion, ils les ramènent et les scannent à la main. D'accord ? Ils font faire ça pendant plusieurs mois pour finalement numériser l'ensemble des collections. Oui. Oui. Pour l'instant, oui. Tout à fait, sûrement. Sur des critères, des ouvrages qui risquent de se détruire, j'imagine, ou des ouvrages qui... Bien sûr, bien sûr. Ah, ça, j'ai pas le détail, moi, là-dessus. Alors, évidemment, oui. Oui, et je vais vous expliquer.
Dans le dernier livret d'eau était indiqué que le contrat avec la BM de Lyon sera bientôt rendu
public. Je vais vous expliquer pourquoi il sera rendu public, juste après. Alors, évidemment, la Bibliothèque nationale de France, elle réfléchit à la numérisation des ouvrages. La direction de la BNF nous dit quoi pour le moment ? Ça, c'est très intéressant. Elle nous dit que la Bibliothèque nationale de France n'a ni les moyens financiers ni les moyens technologiques de numériser ses collections, ce qui est une réalité. Le prix de la numérisation d'une page d'un livre, aujourd'hui, c'est entre 0,12 euros et 0,74 euros la page. D'accord ? Alors, Denis Bruckmann, qui est directeur général des collections de la BNF, à la BNF, nous dit que pour numériser le fonds de la Troisième République française, le fonds documentaire, juste le fonds Troisième République de la BNF, donc une infime partie de la BNF, il faudrait entre 50 et 80 millions d'euros. Or, l'État français donne à la BNF chaque année 5 millions d'euros pour numériser l'ensemble de ses collections. Vous voyez ce qui va se passer ? Seul Google est capable à la puissance technologique et industrielle pour numériser gratuitement l'ensemble des fonds de toutes les bibliothèques du monde. Donc il est vraisemblable, on va voir, hein, vous me direz, hein, si dans quelques mois, la BNF signe. Alors parlons contrat. Où sont mes contrats ? Contrat de numérisation. Quelles est vraisemblablement les clauses secrètes qui vont être rendues publiques de la part de Google ? Vraisemblablement, parce que j'ai pas le contrat sous le nez, donc je ne peux pas affirmer les choses. Hein. Vraisemblablement, il y a dans ce contrat l'interdiction d'utiliser les fichiers numérisés par d'autres structures, librairies, autres bibliothèques, pendant plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire que le catalogue des livres numérisés de la Bibliothèque municipale de Lyon, il sera sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon, ça c'est bien normal, et sur Google Book. Barre. Si vous prenez toutes les bibliothèques du monde, que vous les associez, tout le catalogue Google Book qui représentera les 40 plus grandes bibliothèques du monde ne sera en exclusivité pendant plusieurs dizaines d'années sur Google Book. Et interdiction, d'après les bruits de sonnette, interdiction aux bibliothèques de s'interconnecter. J'entends par là que, imaginons, soyons très concrets, hein, imaginons que la BNF veuille s'interconnecter avec le catalogue de la Bibliothèque municipale de Lyon pour présenter un catalogue global, eh bien, interdit. Interdit dans le contrat. Donc, pour l'instant, ces clauses sont secrètes. Alors, pourquoi elles ne sont rendues publiques ? Je vais vous montrer tout de suite très concrètement pourquoi elles sont rendues publiques. Parce que j'ai fouillé le web. Je vous présente le contrat. Alors, il faut qu'on le voit. Le contrat de Google de numérisation avec la Bibliothèque universitaire de Californie. Google Confidential Execution Copy. J'ai tout le contrat là. Et je vous présente. Donc ça, faut savoir chercher. Hein. Je signale que je n'ai pas fait le hacker. Enfin, pas là en tout cas. Et voici le contrat d'exclusivité avec l'Université du Michigan. Je crois qu'il était public. Voilà. À partir du moment où ils en mettent un public, ils vont tous être publics.
Pas forcément. Pas forcément, ouais. Le contrat avec l'Université de Michigan, il était public déjà en 2006. Mais depuis, c'est le problème. À cette date, je crois que les contrats des autres universités américaines, alors on les trouve peut-être, on peut peut-être pas les trouver, mais n'étaient pas rendus publics.
Ouais.
Avec des clauses d'exclusivité, enfin, qui sont certainement.
Si ça intéresse des gens, hein, vous me laisserez votre adresse email, je peux vous l'envoyer. Comme ça. Regardez ce que c'est un contrat de numérisation. Donc, je résume. Hein. Google est en train de numériser l'ensemble des bibliothèques du monde. Quoi, okay. Au-delà de ça, pour l'instant, pour le moment, Google ne vend rien. Google Book ne rapporte, à part quelques liens sponsorisés publicitaires, il vend très peu de choses. Alors, que propose Google maintenant ? Eh bien, de vendre ses livres. Et c'est la naissance, ça a été annoncé en octobre à Francfort, hein, la naissance de Google Édition. Et pour la première fois dans son histoire, c'est peut-être d'ailleurs son arrêt de mort, hein, c'est peut-être la première gaffe. C'est certains analystes aux États-Unis qui nous disent que, tiens, Google qui défend le modèle de la gratuité, je vous le signale, la gratuité, c'est son modèle principal économique, pour la première fois, il va sortir de ce modèle gratuit de financement par la publicité, hein, pour se lancer dans le commerce électronique et donc rentrer en concurrence directe avec Amazon, autre très grand concurrent. Et à partir de, on va dire, janvier-février 2010, je crois que c'est février 2010, l'annonce officielle, eh bien, vous pourrez acheter les livres en ligne sur Google Book.
La différence avec Amazon, c'est que c'est exclusivement numérique.
Tout à fait.
Numérisé.
Tout à fait. Alors pareil, hein, quelqu'un qui achètera sur Google Édition, donc c'est son nouveau nom, eh bien 37% du prix du livre, la moyenne d'un prix de livre numérique aujourd'hui, c'est Amazon qui donne le là, hein, c'est 9,99$. D'accord, c'est la moyenne. Donc sur ces 9,99$, 37% de ce prix ira directement à Google et le reste à l'éditeur, auteur, enfin à la redistribution classique des droits. Alors, redoutable de la part de Google par rapport à Amazon et son Kindle, livre numérique, tous les formats. Tous les formats. Ça veut dire que la stratégie... Tiens, je vais vous montrer un petit truc pour illustrer mes propos. Ça aussi, c'est très parlant. Alors... Donc moi, je passe mon temps à faire des conférences sur l'économie numérique du livre. Moi, j'ai pas, c'est pas la chaîne, la grille numérique du livre. Et pardon. Voici la stratégie économique du livre électronique. Vous voyez, c'est un tout petit peu complexe. Ce qui montre aussi, juste de voir ce schéma, vous montre l'enjeu technologique et l'enjeu financier du livre numérique, auquel on croit, on pourrait imaginer que c'est une petite activité parmi l'économie numérique. Vous voyez l'enjeu. Et qu'est-ce que je vois dans cet enjeu ? Ben, je vois que Google Book a signé un accord avec Sony. Et que cet accord est considérable. Parce que ça veut dire que le reader de Sony, qui est le grand concurrent de Kindle d'Amazon, eh bien, va vendre évidemment tous les livres de Google Edition. Hein. On voit d'ailleurs que les plus intelligents dans ce domaine, et de très loin, c'est Apple. Non, moi on n'a pas le temps, hein, parce que c'est un autre sujet, mais c'est Apple. Apple qui signe avec tout le monde. C'est-à-dire Steve Jobs, un génie. On verra. Vous voyez ça ? Ça, l'avenir du livre, il est là. Ce qui va sortir vraisemblablement en février 2010, un outil qui s'appelait une tablette Apple, qui sera absolument incroyable. Donc j'ai vu quelques petits films déjà, et qui portera tout. Ce sera une télévision, un livre numérique. Voilà. Donc la stratégie de Google Édition, elle est là. Elle est lire des livres ailleurs que sur son ordinateur. Oui.
L'existence de fichiers numériques tout format proposés par Google comporte sans doute le risque aussi de vendre un exemplaire et de voir s'en multiplier des dizaines, voire des centaines. Parce qu'un fichier TXT qui arrive sur mon ordinateur, je le multiplie par autant de correspondants de mon courrier électronique que je peux avoir. Et de manière exponentielle avec tous les correspondants de mes correspondants. Il aura été payé qu'une fois.
Je vais préciser un tout petit peu les choses. J'ai peu de temps. Quoi. C'est quand je parle de tout format, c'est tous les formats attribués au livre numérique pour l'instant. Pas tous les formats, pas toutes les extensions de fichiers bureautiques de l'histoire de l'informatique. Donc ça veut dire un format PDF avec un login, un mot de passe, donc il est sécurisé. Ça veut dire un format .lit ou EPUB, qui est géré par Adobe, et là, c'est des formats avec des DRM, Digital Rights Management, ou des DRM sociaux. Qu'est-ce qu'un DRM social ? C'est-à-dire, c'est génial ça, c'est quand j'achète un livre, je vais être obligé, j'aurai mon nom sur le livre. Mon nom et mon adresse email, qui s'inscrira automatiquement, incrusté dans le fichier. Ça veut dire que si je vous le donne, le monde entier saura que moi, Pascal Desfarge, j'ai donné le livre. Très fin et beaucoup plus intelligent que les DRM techniques. Hein, voilà. Donc vous inquiétez pas, mais c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement à commencer, il y a une association française qui s'appelle Le Motif qui vient de sortir une étude tout à fait passionnante que j'ai aussi sur le piratage de livres numériques, et il se trouve que le piratage de livres numériques va subir le même sort que la musique numérique, donc c'est tout à fait vrai, et là où ça me fait plaisir. Vous savez quel est l'auteur le plus piraté français en ce moment ? Allez, on fait des paris ? Bec BD, c'est pas loin, mais c'est pas Bec BD. Quel est l'auteur le plus piraté dans le livre numérique français ? Ça fait plaisir. Hein ? Absolument, Gilles Deleuze. Le philosophe Gilles Deleuze, donc moi, j'adore. Et le deuxième, c'est Amélie Nothomb. Pardon. Mais bon... Donc Gilles Deleuze est piraté, c'est génial. Ça veut dire que tout le monde va lire Gilles Deleuze, c'est formidable, sur la société en réseau, logique du sens. Hein, voilà. Donc c'est assez intéressant parce que ça veut dire pour moi que les intellos sont des pirates. Enfin, je vous laisse méditer. Alors pour finir, après on discute. Tout le monde connaît Google Book, mais qui connaît ici Google Scholar ? Alors c'est quoi Google Scholar ? Évidemment, j'imagine que ceux qui ont levé la main sont étudiants ou enseignants. Non, c'est pas vrai ? Je me trompe ? Donc on va montrer aux autres quand même, hein. On va quand même montrer aux autres. Pardon, j'ai perdu le web. Voilà. Alors, qui peut me dire ce que c'est ? Comment on peut résumer ça ? Gilles Deleuze. Ah, j'ai un livre numérique, 1000 plateaux. Avec Félix Guattari. Ici, j'ai une citation. Je vois que... Hein, comment est-ce qu'on peut résumer ça ? Qui peut me le résumer ?
Il me semble que c'est un moteur de recherche dédié à tout ce qui est recherche et enseignement supérieur. Enfin, essentiellement, les fruits de la recherche scientifique.
Tout à fait. Ça ne cherche pas que des livres, ça cherche dans les textes, les articles numérisés, les dossiers documentaires, ça cherche des références par rapport aux mots-clés que vous tapez. Donc là, on est dans une dimension de recherche documentaire très précise. Là aussi, hein, évidemment, il n'y a que les étudiants qui utilisent cet outil, qui connaissent vraiment, le grand public ne l'utilise pas, mais là aussi, il y a l'envie, le désir, la stratégie, hein, de capter l'information et surtout de capter sa circulation, de capter l'hybridation de l'information. Hein. C'est un outil qu'on oublie un peu, mais là on est sur le savoir, hein, et on est sur le savoir scientifique, parce qu'évidemment là si je tape Gilles Deleuze, mais si je tape biotechnologie, nanotechnologie, on est sur des domaines beaucoup plus précis et qui sont liés aux logiques industrielles ou aux logiques scientifiques. Donc, je ne voulais pas oublier Google Scholar parce qu'on n'en parle jamais. Mais pourtant, il est totalement associé à Google Book et évidemment sera associé à Google Édition. Parce que si je trouve un article qui m'intéresse, hein, de l'université d'Oxford, par exemple, d'une revue scientifique d'Oxford, je vais pouvoir acheter l'article bientôt sur Google Édition. Je pense que ce sera la deuxième phase, l'achat de documents universitaires et l'achat d'articles. Alors, est-ce qu'ils vont négocier avec vous, étudiants ? Est-ce que si vous mettez votre maîtrise ou votre master en ligne, ça sera formidable parce que vous allez vous faire connaître par le monde entier, surtout si vous écrivez votre master en anglais. Mais est-ce qu'ils vont négocier avec Google ? Est-ce que vous allez négocier avec Google ? Oui. Vous allez protester. Ils vont le faire. C'est ce que dit Sylviane, la politique du fait accompli, c'est tout à fait ça. Oui. Ils le font, puis après ils voient, ils gèrent. Ils gèrent, ils négocient. Ceux qui ne parlent pas et qui ne se rebellent pas, eh bien, c'est tant pis pour eux. Et ceux qui se rebellent, ils les payent. Oui. Ben voilà. Donc c'est ça, effectivement. Mais quelque part, la stratégie, ça veut dire que toute production intellectuelle faite par des universitaires et des étudiants sur la planète, qui sera numérisée ou indexée sur ce moteur, quelque part, appartiendra à Google. Et là, on est sur des domaines autrement plus importants que Salambo de Flaubert, on est sur l'avenir là. Hein, on est sur la pensée, sur vraiment des logiques. Et qui vous dit qu'ils ne revendront pas ce savoir à d'autres entreprises privées ou à des États ? Je vous laisse méditer. Hein. Ah oui, d'ailleurs, vous vous souvenez de la carte génétique des individus ? Imaginez maintenant que tous les Américains aient payé. Ah, on m'appelle, c'est Google. Que tous les Américains et payer cette carte génétique d'eux-mêmes. Eh bien, cette société commerciale qui s'appelle 23 et moi va pouvoir vendre à l'État américain pour sa politique de santé un système d'information globale sur la santé des Américains Donc il y a aussi le rapport de Google avec les structures, pas simplement avec l'individu, qui est en jeu derrière. Alors, pour se rassurer, c'est juste pour se rassurer, je vais finir comme ça. Vous dire que, par exemple, bien sûr, on peut acheter des livres, mais moi, je vous propose un autre service. On peut louer des livres. Vous voulez louer un livre ? Je vous propose le nouveau service proposé par le MIT à Boston, aux États-Unis, un des plus grands centres universitaires américains, qui vous permet, bibliothèque et librairie surtout, bibliothèque-librairie, je ne sais plus ce que c'est, d'ailleurs c'est une hybridation des deux, qui vous permet de louer des livres. Ça c'est pour mes bibliothécaires qui sont ici. Ça vous permet de louer des livres. Donc ça veut dire que je vais m'inscrire, je vais payer pour ça, et je vais louer les livres du MIT. Mais attention, je vais louer le livre qui vient de sortir. C'est-à-dire que je vais avoir une actualité sur un livre qui vient juste de sortir. Là, ce n'est même pas Amazon. Je n'ai pas besoin qu'Amazon me l'envoie. Je n'ai pas besoin que Google Édition me le vende. Je le loue. Si je le loue, je vais pouvoir le visualiser, le travailler, faire des copier-coller d'une certaine partie du livre, pas de tout, il y a des limites. Et je vais travailler avec mon livre, donc étudiant, si vous voulez... C'est un outil que je trouve absolument génial, c'est-à-dire que vous voulez consulter un livre pendant une heure, vous le pourrez. Mais vous l'aurez une heure. Eh oui. Est-ce que ce n'est pas une autre façon d'aborder le livre ? Alors ça, Google, ils n'aiment pas. Le MIT, les bibliothécaires n'aiment pas non plus. Et je vais vous montrer un deuxième exemple de cette nouvelle forme dans la chaîne du livre, dans la grille numérique du livre. Il n'y a que la grille qui peut permettre ça. C'est-à-dire une relation directe avec le lecteur. On oublie les intermédiaires, la désintermédiation. Deuxième service, alors celui-là, il faut que je le trouve. Très récent aussi. Ah, pardon, je n'ai pas tout copié. On va voir s'il le trouve. Non. J'ai fait une erreur dans le mot-clé. Vous savez que Google, j'ai pas le temps de rentrer dans la recherche sur Google. Vous savez que Google est un crétin. Que si vous tapez lapin dans Google, il ne sait absolument pas, Google, que le lapin est un animal aux longues oreilles qui se reproduit à vitesse industrielle. Que comprend Google ? Vous lui parlez, vous parlez à l'algorithme. Il comprend que vous lui demandez toutes les pages où il y a la chaîne alphanumérique LAPIN. Voilà ce que comprend Google. À partir du moment où vous avez compris ça, vous rentrez dans une autre façon de chercher sur Internet. Alors, regardez ça. Et après, on va conclure. Ça s'appelle Daily Lit. Et c'est un service en ligne qui vous permet de louer et de vous abonner à des livres. Exactement comme le MIT. Sauf que là, vous allez pouvoir vous abonner en gérant le temps d'abonnement de chaque page. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un livre qui va sortir et vous allez dire, je veux recevoir sur mon téléphone portable iPhone 2 pages du livre par jour, comme un feuilleton. Il y a des gens qui ont analysé d'ailleurs ce site avec les feuilletons de Gensu. C'est-à-dire que vous allez recevoir 2 pages. Vous lirez vos 2 pages dans le métro, dans le bus, et puis le lendemain, vous recevrez 2 pages, puis encore 2 pages. C'est un autre mode de consommation du livre. Ah, par exemple, où il y a le réseau téléphonique ne marche plus, où l'Internet ne marche plus, etc. Donc vous irez voir Daily Lit, c'est dans l'économie du livre, ce sont de toutes nouvelles approches. Qui évidemment questionne la médiation numérique que devrait normalement poser le bibliothécaire. Le bibliothécaire est mort, là, dans ce système. Enfin, mort. Non, parce que peut-être que Daily Lit est un bibliothécaire. Enfin, je vous laisse méditer, là aussi, là-dessus. Alors, comment conclure avant d'en discuter ? Je vais reposer ça. Maintenant que je vous ai dit tout ça, et je suis loin d'avoir tout dit, et je suis loin d'avoir une perception archi-fine du domaine, je découvre aussi, et puis surtout, je suis une pauvre victime de Google, vraiment, je dois être pire que vous, parce que moi je fais que ça toute la journée. Qui peut faire du mal à Google ? Qui aujourd'hui peut déstabiliser cette société pour qu'elle ne rentre plus dans une logique monopolistique ? Qui a dit nous ? Exact. Le seul, c'est ça le paradoxe, c'est que vous êtes, à force d'utiliser Google, vous travaillez, vous êtes des googleurs. Vous êtes tous des googleurs. Hein, vous savez qu'il y a un vocabulaire. Hein. Si vous allez à l'entreprise Google, c'est le Googleplex. Hein. Googleiser quelqu'un. Ah oh tiens, j'ai googleisé machin hier, il y a tout. Et tout pourrait se traduire à la sauce Google. Vous verrez qu'un jour, on aura le restaurant Google. Ils y réfléchissent. Hein. C'est-à-dire, on peut tout décliner. Le modèle de Google peut se décliner sur toutes sortes d'autres activités. Bien sûr. Voilà, je pense que Sylviane, elle a parfaitement compris. Comme ils connaîtront vos goûts. Donc, le seul danger pour Google, c'est vous. C'est qu'à partir du moment où on ne leur fait plus confiance, les gens arrêteront d'utiliser Google. Et à partir du moment où ils arrêtent d'utiliser Google, Google est mort. Et c'est ça qui est incroyable. Enfin, je trouve incroyable, moi, dans cette société commerciale. C'est que c'est une société commerciale qui a un pouvoir aujourd'hui considérable. Considérable, hein, c'est vraiment, il n'y a pas photo. Hein. Et en même temps, son pouvoir est extrêmement fragile. Parce que si les gens n'ont plus confiance, s'ils font la moindre erreur de stratégie, la moindre erreur, hein, eh bien, les gens arrêteront, car se méfieront de Google, et ça commence, là. Hein, ça commence, c'est-à-dire que les gens commencent à se dire « j'en ai marre d'utiliser Google ». Alors, pour finir complètement, je vais vous montrer d'autres moteurs. Alors, moi, mon cœur de métier, hein, il y a 73 métiers dans Internet en répertorié. Mon cœur de métier, c'est la veille stratégique. Donc, les gens me payent pour chercher de l'info, hein. Entre autres. Hein. Mais mon cœur de métier, il y a des gens qui sont webmasters, webdesigners, ingénieurs réseau. Moi, c'est la veille stratégique. Donc, je vous montre d'autres moteurs. Parce que, évidemment, moi, j'utilise d'autres moteurs, bien que Google, j'aime bien. Hein. Donc, j'ai essayé de vous montrer des moteurs un peu expérimentaux, un peu innovants, pour vous montrer jusqu'où on va aujourd'hui. Donc ça, c'est un moteur qui était en version bêta il n'y a pas longtemps, mais je crois qu'il est passé en version officielle maintenant. Oui. Qui connaît Specify? Ah! Personne connaît Specify? Donc là, vous voyez, je note le dépouillement incroyable de l'interface. Il n'y a rien. Et je tape un mot-clé au hasard. Et voilà les résultats. Ce moteur de recherche a choisi, c'est une logique mondiale aujourd'hui, et très très passionnante, en tout cas moi qui me passionne, c'est la visualisation de l'information. C'est-à-dire que, comme on va avoir affaire à nos fameux digital natives, il va falloir que les services qu'on met en ligne, hein, soient dans la logique visuelle. L'interface du jeu vidéo Nintendo DS, PlayStation. Et donc les résultats, au lieu d'être des liens vers des pages, ce sont des liens vers des pages. Mais ces liens, vous les voyez. Vous voyez l'image qui provient de ce lien. Hein ? Et donc après, vous pouvez vous promener. C'est extrêmement à la fois ludique et ergonomique. Ça risque de faire mal à Google. Google a intérêt à se méfier de ce genre de logique. Je continue. Évidemment, je vous montre Exalead. Ça, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je le montre quand même. Donc Exalead, c'est une société française qui est aujourd'hui le meilleur moteur de recherche français, il n'y a pas photo, qui a des résultats très proches de ceux de Google. Hein. Après, il faut savoir l'utiliser peut-être. Ce moteur a comme particularité qu'il a été choisi par la Commission européenne pour mettre en place le premier moteur de recherche européen qui s'appellera Quero et qui est censé, je dis bien censé, hein, concurrencer Google. Donc leur technologie. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme particularité ? Si je tape un mot-clé, pardon, il vous présente évidemment comme Google les liens, mais il vous présente la page d'accueil, il vous associe des mots-clés, hein, vous avez des tags supplémentaires, voilà. Il a... Ah non, c'est pas de la publicité. C'est un très bon moteur. Hein. Ah tiens, tu as remarqué ça? Oui, il y a les annonces Google, que eux aussi ils ont pactisé avec Google. Google les a coincés. Je vous en montre un autre. Alors moi, je l'adore, celui-ci, mais il est assez complexe à faire fonctionner.
c'est UGICO. Donc c'est un moteur de... Qu'est-ce qu'il a comme particularité, UGICO, pour les étudiants qui me disent « Ah oui !» Ouais. Et surtout, il utilise l'expérience des utilisateurs. Il capitalise ce que vous cherchez. C'est-à-dire que il repère votre adresse IP, et plus vous cherchez chez vous avec UGICO, plus il vous donne des références qui sont liées, qui sont proches. Il enregistre vos mots-clés. Il a une logique sociale. Il se sert de ce que vous dites pour personnaliser votre résultat. Donc il est très mignon. Hein. Je tape mon mot-clé. Voilà, pas le temps de détailler, sinon on fait une conférence sur les moteurs de recherche. Hein. Mais vous voyez qu'il y a autre chose que Google. Cartoon, je ne montre pas Cartoon. Hein. Vous connaissez BabyGo ? BabyGo.fr, petit moteur de recherche français que j'adore. Ça, c'est pour varier les références, parmi d'autres. Hein. Je vous présente un petit moteur de recherche pour les enfants, avec évidemment tri des informations violentes, pornographie, etc. Filtrage. Pixolu, qui connaît Pixolu ? Pixolu, moteur innovant lui aussi. Zut, j'ai perdu... Ah non. Moteur de recherche d'image. Moteur allemand. Ah bah tiens, ils ont passé en... Pardon, hein. Alors, ils sont repassés en version bêta, on va voir. Eh oui. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous le montrer, mais vous irez voir. C'est un moteur de recherche d'image, hein, qui vous présente... Personne n'a jamais vu ? Les deux. Donc, ils capitalisent des images comme ça... Pour aller plus loin dans la visualisation de l'information, puis je vais finir par ces trois sites liés à la musique. Parce que ça montre bien dans la musique, alors là, ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ces systèmes de visualisation de l'information pour pouvoir naviguer dedans. Donc là, j'ai trois sites, et je terminerai comme ça. Celui-là est très célèbre, et ben voilà. J'ai pas de chance. Hein. Alors, on va passer... Une autre URL. Qui connaît ? Alors, il me faut du son, puisque c'est de la musique. Il s'appelle Music Plasma. Music Ovary, pardon. Music Ovary. Donc là, je choisis la pop. Et je choisis pop, de la pop calme. Si ça marche pas au niveau du son. Ah mais c'est parce que j'ai ça. Peut-être faire ça. Oui, ça marche mieux comme ça, vous l'entendrez. C'est-à-dire, je peux choisir un genre et me dire que je veux de l'électro-positif énergique noir. C'est une base de données derrière gigantesque. Et j'accède à une musique et je cible mon écoute. Ça, c'est typiquement de nouvelles formes d'accès à l'information. Et ça, Google ne s'y est pas préparé. Pour le moment, en tout cas. Hein. Microsoft, un peu plus, déjà. Hein, Microsoft, un peu plus. Je vais montrer un dernier. Non, on écoute. Oui. Je comprends pas pourquoi il m'a. Je vous en montre un dernier. Alors là, on passe au stade au-dessus, on va dire. musique-map.com. Vous voyez, c'est moche. Hein. C'est très, très moche. Hein. On dirait Google. C'est moche, parce que c'est à moitié universitaire. Et donc ça, c'est pas du tout un moteur pour écouter la musique, c'est un moteur qui cherche les références relatives à un artiste. Donc là, on rentre dans les logiques du web sémantique, dont j'ai pas le temps de parler, qui est une conférence en soi, le web sémantique. Et là, si je tape un artiste, donc si je sais pas moi, je tape Radiohead. Il va me chercher toutes les références, tout le circuit référentiel de Radiohead, autour de Radiohead. Vous voyez, U2, REM, Pink Floyd, c'est-à-dire toutes les références de Radiohead. Le jour où je taperai Thomas Pynchon sur un moteur de recherche comme celui-ci, et où je pourrai voir toutes les influences de Thomas Pynchon, les liens avec les travaux universitaires, les photos de Thomas Pynchon, il y en a plus. Eh bien, j'aurai un système intelligent où on rentrera non plus dans la quantité, l'économie de l'abondance, mais on retournera dans l'économie de la rareté d'information, ce que gèrent les bibliothécaires d'habitude, c'est-à-dire que j'aurai un système de qualité d'information hein, autour d'un auteur, d'un écrivain, d'un artiste. C'est peut-être ça, la solution.
Il faut de la plus-value. Créer cette plus-value.
Re-rentrer dans la qualité d'information. Sauf que Google l'a prévu aussi.
Ça, c'est des gens qui associent Radiohead.
Peut-être que la documentaliste du 21e siècle, elle va mettre en place, c'est ça, son pareil, mettre en place ce type de système d'information intelligent autour de la cuisine, la gastronomie, ce qu'on veut, enfin, ça dépend après du thème. Mais c'est peut-être ça la solution, aller vers la qualité. Donc, vous savez, hein, dans la recherche d'information, on dit faire du bruit du silence. Hein, on tape lapin, il y a plein de bruit. Le bruit, sur le, si je tape, cherche tout sur la biologie du lapin. Le bruit, ça sera Bugs Bunny, c'est du bruit, c'est la pollution informationnelle. Si maintenant, face à cette infobésité, je fais du tri, c'est-à-dire bien chercher de l'information sur un moteur, c'est dégraisser. C'est le chercheur d'or qui enlève le sable pour faire sortir la pépite. Et bien peut-être que l'avenir de la recherche d'information, et pour contrecarrer Google, c'est de mettre en place dans les universités, dans certaines entreprises privées d'ailleurs, c'est vraiment dans ces systèmes, des systèmes d'information de haute qualité. Trier, analyser, valider et traiter. Voilà, j'en ai fini. J'espère que je vous ai donné une toute petite perception de ce qu'est Google. Moi-même, je... J'ai de la chance, c'est le site qui est le plus en phase avec le côté proche.
C'est la raison pour laquelle cette conclusion montre parfaitement que ce n'est pas la mort des intermédiaires. Entre producteur, créateur d'une information, d'une œuvre, et lecteur, si on reste dans le domaine du livre, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure un petit peu, le système obligatoirement va bien devoir organiser le tri, la sélection. Il faut absolument qu'on revienne au cœur de métier, que ce soit pour les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires. Ça va prendre d'autres formes, mais ça, je ne vois pas comment on dépassera ça.
Sauf que Google achètera les intermédiaires.
Peut-être, je ne sais pas. Il y a un petit mot, peut-être, ce n'est pas pour déprimer tout le monde, mais simplement sur ce qu'on pourrait appeler le phénomène de big browserisation, peut-être, lié à Google, parce qu'en lisant ce livre que je vous recommande, il y en a d'autres, on pourra vous faire passer une liste bibliographique, parce qu'on a un petit peu manqué de temps avant la rencontre, mais je vous recommande déjà la lecture de ce livre de Barbara Cassin qui a été évoqué. Elle évoque vraiment l'intrusion de Google dans les données personnelles qui transitent via les mails, simplement. Je trouve que ça serait bien de juste rapporter deux choses. Une qui est de l'ordre de l'anecdote, l'histoire de la tarte aux pommes, la recette de la tarte aux pommes. Et puis l'autre qui est plus dramatique, c'est l'emprisonnement d'un journaliste ou d'un, je ne sais plus, plus, je vais essayer de retrouver, sur la base de données personnelles transmises via des mails et qui ont été transmises par Google aux services qui étaient intéressés. Enfin, je ne sais plus si c'est aux États-Unis ou en Chine, mais je vais retrouver. C'est en Chine, hein, je crois. Est-ce qu'on pourrait dire juste un petit mot, parce que c'est quand même aussi des enjeux de société qui sont assez terrifiants. Quand
oui,
même.
Enfin, terrifiants, je ne sais pas.
Enfin, moi, je trouve.
En fait, je vais t'embêter, Sylviane, parce que je vais te donner un exemple contraire. Comment aux États-Unis en 2004, et ça c'est pas Barbara Cassin qui en parle, en 2004 on a retrouvé un serial killer très dangereux qui était à son 7e ou 8e meurtre. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a analysé son ordinateur et on a vu qu'il tapait un certain nombre de mots-clés sur Google qui étaient des mots-clés sur la forme des couteaux. Et on a trouvé là où il achetait ses armes. Et on l'a arrêté. C'est la même logique.
Mais c'est pas une réponse, ça, satisfaisante.
Parce que
c'est
la même logique.
Non, mais parce que de cette manière-là, on cautionne et on justifie, voilà, je trouvais pas le terme, on justifie l'installation des caméras tous les 10 mètres dans les
rues.
Oui, mais
c'est pas Google, les caméras.
Non, mais je parlais de big brotherisation. Oui. C'est tout. Parce que l'histoire, quand même, l'histoire de la tarte aux pommes, elle est très, 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 très intéressante. C'est une personne qui transmet via via un mail et via Google une recette de tarte aux pommes. C'est tout à fait inoffensif. Et à sa fille, et à la réception, alors je ne sais pas trop comment ça fonctionne et comment c'est possible. Moi, je n'ai jamais reçu de mail accompagné de publicité. Mais en tout cas, toujours est-il que la fille destinataire a reçu non seulement le message de sa maman, mais il était accompagné d'un certain nombre de publicité pour des livres de cuisine, peut-être sur comment on cuisine les pommes au four, ou je ne sais plus trop quoi. Enfin, en tout cas, des informations publicitaires qui montraient de toute évidence que Google, que l'algorithme n'est pas aveugle et que Google était entré, enfin le système en tout cas, dans le message personnel transmis d'une mère à sa fille pour qu'on y ajoute au passage de la publicité. C'est Sylviane, assez inquiétant.
Sylviane, tout qui a une adresse Gmail ici ? Voilà. Vous savez très bien que tous ceux qui ont l'adresse Gmail, un compte Gmail, une des meilleures messageries du monde, parce que c'est exceptionnel Gmail en termes d'efficacité, à partir du moment où vous écrivez un mail, il vous affiche toutes les publicités relatives aux mots-clés qu'il trouve dans ce mail. Ce que je veux dire, Sylviane, c'est que c'est un système déjà institué et qui, alors là, tout le monde l'utilise aujourd'hui. Hein. La personnalisation de la publicité à travers les mots que vous inscrivez. Ouais. Oui, peut-être. Oui, sûrement. Sûrement qu'on n'en a pas conscience. Sûrement. Ouais. Voilà. Et je vous ai mis les petits logos. Hein. Là aussi, c'est assez étonnant. C'est la seule société au monde qui a un logo. Hein, McDonald's a un logo. C'est intéressant en termes de design. C'est un logo. Eh bien, c'est un logo ouvert. Même le logo est sur la philosophie de Google. Essayez de transformer le logo de la Shell, de Microsoft ou de France Télécom. Vous avez un procès. Vous avez un procès. Google, sur sa philosophie de l'ouverture, vous propose de jouer avec son logo. Et même mettre un concours dans le monde entier pour jouer avec son logo. Ces logos que vous avez devant vous, ce sont des internautes qui les ont construits eux-mêmes. Là aussi, le modèle est ouvert et gratuit. Il n'est pas protégé comme une marque. Et ça, c'est très intelligent. C'est redoutable. C'est redoutable parce que, en plus, qu'est-ce que ça produit ? Ça veut dire que Google vient de se fabriquer une agence graphique à l'échelle mondiale qui lui coûte 0 euro. Et que le jour où ils voudront faire évoluer leur logo, ils auront 100 000 images comme base de travail pour réfléchir. C'est redoutable. Ils se servent des réseaux collaboratifs et vous travaillez pour Google. Les graphistes du monde entier aujourd'hui travaillent pour Google gratuitement. Regardez. Et ce système ouvert, c'est la clé. Système ouvert et gratuit, c'est la clé de Google, y compris sur le logo, pas simplement sur le moteur.
Le logo sert de moteur de recherche, parce que quand c'est un logo comme ça, ça renvoie un événement.
Tout à fait. Logo égale événementiel, le logo de Noël. Bah regardez, celui-là est typique, il faut que je l'agrandisse parce qu'il est très récent. C'est le logo pour la mort de Michael Jackson. Un logo égale un événement. Alors que les sociétés capitalistes du XXe siècle sont dans la fermeture, on ne touche pas à mon logo, hein, on ne touche pas au logo de la BNP, on ne touche pas au logo de Microsoft, eh bien, cette société du XXIe siècle, elle, est un système ouvert qui vous demande de l'aider. Et vous le faites. C'est ça qui est dingue, c'est que vous le faites.
Merci. Juste une remarque, mais ce système ouvert et gratuit, comme vous dites, il cache une grande perversité, quoi.
Alors c'est ce que j'arrête pas de dire, putain.
Oui, mais bon, voilà, c'est le gros constat. Et...
C'est la clé de compréhension. C'est que j'ai commencé par dire qu'ils étaient modestes, ils sont angéliques, ils ont un discours biblique, ils aiment les gens, don't be evil. Et justement, c'est pire que tout.
Ben oui.
C'est pire que tout, évidemment. Hein? Mais c'est très nouveau, c'est très novateur, c'est très intelligent. Parce que si vous rencontrez quelqu'un, prochain salon du livre, allez voir le stand Google. Vous verrez, c'est physique. Vous aurez devant vous des jeunes gens qui ont entre 25 et 30 ans, des Brad Pitt. Donc 15 Brad Pitt. En général, ils sortent de Berkeley, Harvard, Oxford. Ils parlent 5 langues. Ils sont extrêmement cultivés. Ils connaissent bien la culture française. Et ils sont très, très gentils. Ce sont des anges noirs. Ils sont en costard, là. Ils sont très, très gentils. Et ils sont super gentils avec les bibliothécaires parce qu'ils aiment beaucoup. Merci beaucoup.